Hello les amis, j'espère que vous allez bien pour ce dernier jour de la semaine avant le week-end. J'espère qu'il y a week-end. J'espère qu'il y a week-end. J'espère que vous avez des beaux projets de week-end. J'espère que vous ne bossez pas trop. Voilà. 145 streams, soit 8 jours sur cette chaîne qu'est Boulot Sam. Quoi, j'ai fait 145 streams en 8 jours? Ah, c'est pour ça que je suis fatigué. Oh que oui, il y a week-end. Hop, 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 hop. Est-ce que moi, il y a week-end? Moi, il n'y a pas week-end. Il y a festival demain. Festival MVP. Je cours un 5 km dimanche, mais il pleut. C'est bon, c'est bien de courir sous la pluie. Ça rafraîchit, ça refroidit la machine. Tu bosses trop? Non, plaisir. Plaisir d'offrir. Je bosse 18 heures par jour, me dit Major Phoenix, depuis que j'ai appris à coder avec Claude. Salut FRJ. Merci Broubou 06. Waouh. Merci pour le 51e mois. Ah oui, c'est ce week-end le marathon de Paris? Attendez, c'est pas ce week-end le marathon de Paris? Si, c'est ça, hein, je crois. Hein. Pop, pop, pop. Sugar, tu le fais? Objectif de temps? Objectif de temps? Il y a des coureurs du marathon de Paris, si? Tu as eu mon ami Martin en tournage de questions pour un champion. Ah, trop bien. J'espère qu'il a passé un bon moment. Bonjour, la chaîne que j'adopte du Liban. Mais oui, Verena, tu nous avais raconté cette histoire. Autorisé. Hop. La chaîne que tu adoptes du Liban arrive à l'aéroport demain. 3h15 en négatif split? Tu sais que mon record, c'est 3h13. Attends. Tu vas pas nous faire. Attends, il y a Stardust Air Espace qui nous dit problème résolu. L'ami Stardust Air Espace qu'on a essayé de raid deux fois parce qu'il fait un contenu de fou en ce moment sur Artemis et ça marche pas. Est-ce que tu arrives réussi à découvrir, à comprendre le problème? Comment ça, Houston n'a plus de problème? J'adore. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, Sugar, 3h15, fais-moi moins de 3h13. Bats mon record, s'il te plaît. Tu es jeune. Tu étais bloqué. Essaie de me follow et tu verras, c'était totalement de ma faute. Tu étais bloqué. J'étais bloqué. J'ai été ban. Tu as déjà 3h09 sur ton premier. Tu m'as déjà battu. Nom de Dieu. Salaud de jeune. Tu étais bloqué, sûrement un plugin. Ok. Attends, je vais aller te follow. Stardust. Stardust. Est-ce que tu l'as? Incroyable. Air Espace. Je t'ai. Alors je ne pouvais pas te follow. Et attention, en direct live, mesdames et messieurs. En direct live, le follow pour Stardust Air Espace qu'on essaye de raid depuis le début de la semaine. Et là, ça marche. Mais dis-le que j'étais ban. C'est quoi cette histoire de plug d'ailleurs? Tu nous as dit c'est un problème de plug, c'est-à-dire. Tu peux nous en dire plus? Merci pour 06, merci Jokaël. Voilà. Un plug bloqué? Ouais. Il y a des médecins régulièrement qui viennent nous parler de ça ici, dans les services d'urgence. J'avais testé plein de plugins, ouais, toi tu appelles ça comme ça, et tu sais les autorisations, tout ça, il a dû choper une ban list. Ça veut dire que je suis sur une ban list, moi? C'est-à-dire, moi?
Moi? Parce que, mais oui, bien sûr,
moi
votre partie.
Mais qui elle est, celle-là? Qu'est-ce que j'ai
RPR.
Fait,
moi?
Moi, je suis sur une ban list, moi? Parce que ça va, c'est parce que c'est tout ça parce que ma chaîne parle de plug. Comment ça, fichier S? Pour éviter toute confusion, ne serait-il pas mieux de dire extension, c'est-à-dire? J'adore. Vous êtes très en forme quand même. J'adore. Je suis en retard ce matin parce que j'avais un petit déjeuner secret. J'avais un petit déjeuner secret sur un éventuel stream, mais dans pas tout de suite, dans longtemps, mais un truc. Non, pas avec mon amoureuse, mais avec, non, de boulot. Et ce serait un stream de croissant choco, rien, un peu gras du bedou. Si ça se fait, c'est une dinguerie. Voilà, je peux rien vous dire. Non, je me fais la grasse mat. Non, Puis alors, comme je suis un peu distrait en ce moment, je me suis levé, donc j'ai pas dormi beaucoup, j'ai lu les journaux, je me suis préparé pour emmener les enfants à l'école. Tu vois, faut qu'on parte à 8h30 de la maison pour être à l'heure, tu vois. Et là, je vois 8h15, donc salle de bain, tu vois, un quart d'heure pour douche, rasage, dents, on va envoyer, tu vois. Et là, je vois une notif sur mon téléphone. 8h45, mon rendez-vous pro, petit-déj. Et là, moi j'ai un agenda papier que je ne regarde jamais. Oh putain, le rendez-vous de 8h45, il était 8h15. Pas douché, pas lavé, pas rasé, pas les dents, rien. Et dans ma tête, j'avais pas dit à Hélène que je pouvais pas emmener les enfants à l'école. Voilà. Je sors de la salle de bain. Je dis, Hélène, j'ai un souci, j'ai oublié mon rendez-vous avec. Et elle me dit, oui, bah oui, je sais, tu m'avais dit, c'est moi qui emmène les enfants à l'école. Voilà, donc je lui avais bien dit que j'avais ça, donc tout était OK de ce côté-là, mais moi, j'étais pas prêt, quoi. Et ben, un quart d'heure plus tard, j'étais dans le taxi. Lavé, douché, rasé. Pas les jambes, hein, j'ai pas fait les jambes. Rasé, les dents lavées. Habillé, petit pantalon bleu chic, le petit t-shirt propre, la petite veste. Voilà. Et j'étais allé au rendez-vous. On était trois, je suis arrivé le deuxième. Speedrun. Après, c'est à peu près le temps qu'il me faut. En 15 minutes, je peux être prêt, ça, je sais. Mais voilà, fallait pas que. Fallait, bon, le taxi, j'ai appelé un taxi, il est arrivé tout de suite, enfin voilà. Mais en ce moment, je suis un peu distrait, quoi. Donc voilà pourquoi je suis en retard. 15 minutes, c'est impossible chez moi. Oh, bah, c'est vite fait, hein. En fait, c'est vite fait, hein. 15 minutes. 15 minutes dans une salle de bain, t'en fais des trucs, hein. Titre. Non, 15 minutes. Moins c'est compliqué. Moins si tu dois te raser, te laver les dents, te passer sous la douche, t'habiller. Un peu de crème à le visage quand même, tu vois. Petite crème de petite base, quoi. Moins c'est compliqué. Mais 15 minutes, tu fais tout ça. Tu te brosses les dents sous la douche. Même pas, même pas. C'est le rasage qui prend du temps, quoi. C'est le rasage qui prend du temps. Et le café, bah le café était pris depuis longtemps parce que. T'as vu, Sugar, je suis rapide en ce moment. Hein. C'est headshot sur headshot. Hein. Donc, c'est bon, je suis assez patient comme ça. Le café était pris depuis longtemps parce qu'on s'était levé tôt pour lire les journaux, quoi. Bien sûr! Ça dépend ce que tu rases. Ah, bah là, oui, non. Là, on est sur le. Hein. Moi, je me brosse la douche sous les dents. Stardust. Moi, je me brosse la douche sous les dents. J'adore. Sam, je reviens de mon boulot. C'est Jurassic Park, 5 minutes de douche. Hein, quoi? Comment ça? Mais quel rapport entre la douche et Jurassic Park? Là, je l'ai pas, là. Là, je l'ai pas. J'ai raté un truc? Un quand Samuel Barbu? Je sais pas. Déjà, il faudrait un Samuel avec moins de ventre, déjà. Sinon, je te bloque. Mais non, je chème personne, moi. Qu'est-ce que je chème? Je chème rien du tout. T'es fou, ça. Tu as déjà calculé ta vitesse de lecture pour quelqu'un qui lit autant? Je serais curieux de savoir. Non, mais c'est mon super pouvoir. Je suis officier de navigation. 10 mois de mer, je suis à Bali. Ça va, la vie. Hein. Ça va, la vie. Bonjour les amis, je suis prothésiste dentaire. Merci, me dit Flack, de ne pas négliger les dents, j'ai trop de travail. Si vous pouvez faire des efforts pour que Flack soit pas débordé de travail, s'il vous plaît. Mais attends, mais si t'es débordé de travail, si on a des dents pourries, toi, ça te fait du travail, ça te fait de la thune, non? Non, c'est pas? C'est plutôt bien, non? Allez, mangez des bonbons pour notre ami. Allez, vous niquez les dents. « Waouh, t'es vraiment des questions techniques là. Par exemple, parce qu'on parle de ma vitesse de lecture. Par exemple, si j'envoie un prout dans tes narines, est-ce que tu le lis avant de le recevoir? Oui. Non, je lis vraiment très très vite. Je lis à la vitesse de la lumière. Tu n'as pas encore pensé un message problématique dans ce chat qu'il est déjà supprimé. Voilà. Tu es là, tu as envie de dire une connerie dans ce chat. Voilà. Tu ne l'as pas écrit, tu es en train de le penser, il est déjà supprimé. Je l'ai déjà lu et Sugar l'a déjà supprimé. Merci Zephyr, merci Chomban. Eh ouais, tu peux pas tester. Tu cours aussi vite que tu dis? Eh non, hélas. Incroyable. Vous êtes très en forme ce matin quand même. Hein. Il touche un livre et il est déjà lu. Alors ça, c'était mon. Ça, c'est. Sam, tu devrais communiquer sur tes horaires de stream du festival. Mais oui, mais où est-ce que je trouve ça, moi? On va essayer de trouver ça. Tu as raison. Moi, c'est quand j'étais plus jeune, c'était je voulais avoir ce super pouvoir, tu sais. Tu touches un livre et tu intègres son contenu. Tu vois? Bah, je sais pas, un livre pour apprendre à parler une langue étrangère, par exemple, tu fais. Je viens de taper Festival MP. Alors, j'ai tapé Festival, il m'a mis Festival de Cannes. Oui, comme un peu comme dans Matrix, ouais. Un livre pour adultes? Hein, quoi? Est-ce qu'on a les horaires de stream là? Le Festival MP, c'est demain. Hein. Prends ton lien Nightbot. Programmation. Ah bah voilà. Ah bah voilà. Merci beaucoup. Alors, donc demain, je taffe toute la journée. Hein. Ah, c'est 11h30? Mais Camille me dit à 10h déambulation, mais 10h, c'est même pas marqué là. Donc c'est pas bon ça, l'horaire n'est pas bon? Parce qu'avant, il y a une déambulation, c'est ça, à 10h? Explorer toutes les voies, c'est pas interdit aux moins de 18 ans, ça? Waouh. J'ai vu ça sur Insta. Ah. Ouais, ben, c'est dommage, c'est pas à jour. Non, effectivement, il doit y avoir une déambulation au salon de stand en stand qui doit commencer à 10h. À 11h30, je monte sur la scène avec cette thématique, s'orienter en 2026 et si on arrêtait de chercher le bon métier. Voilà. Avec Ludovic B, avec Carrier Queen, avec Samuel Durand, c'est que des goats les Samuel. Lorraine Lévy, qu'on connaît bien, Marron Club, les créateurs de contenu. Donc c'est un joli plateau jusqu'à 12h30. Après, je sais que j'ai une pause déjeuner. Ah non, pas du tout. Après, j'ai un entretien MVP avec Paul de Saint-Sernin. Je suis complètement con. Je pensais que c'était ma pause déj. Putain, 10h, 13h15, je suis en live, mais ils vont me tuer, bordel. Merci Morgose avec un W. Merci Zéphir. Merci Chomban. Voilà. Et là, j'ai une petite pause. Et je reprends 15h. Non, je reprends avant ça. Bon, le truc est pas du tout à jour. C'est pas fou en vrai. Normalement, je reprends. J'ai qu'une heure de pause. Attends. 13h, 14h, je reprends avant à 14h15. Ouais. 14h, tu déambules aussi. Mais c'est pas écrit du coup? Ah, c'est dommage. Donc en fait les déambulations sont pas comptées quoi. Ouais, bah, je peux pas vous aider moi. Tu disais que sur Insta c'était plus précis? L'Insta de MVP? On va aller voir. Parce qu'en fait comme j'écris l'émission cet après-midi et ce soir moi, je veux pas streamer ce soir, hein, ça va taffer. Hein. C'est qui le vieux là? Ah c'est moi. Alors. Ça, c'est pareil, ça. Scène live. Ah non, c'est pas moi. C'est où les déambulations? Oh là là, le visuel est dessus, celui-là. Oh là là, c'est beau, c'est beau. Vous attendez combien de visites? Sur le visuel? Quel visuel? Quel visuel? Quel visuel? En com, hein, quoi? Hein, quoi? Quoi? Kevin, hein, lequel? De quoi? D'où? Hein, lequel? Celui sous les. Lequel, vous? Hein? Pardon? Celui que tu viens d'aimer? Quel? J'ai rien aimé du tout, moi. J'ai... Ah, celui-ci là? Ah, en com. Dessous là? Truc de jeune ça. Ah. Ok, merci. À 10h, Samuel Etienne et Ludovic B feront un tour du festival au travers d'une grande déambulation pour découvrir les stands présents. Ok, c'est ce que je voulais vous dire depuis tout à l'heure, mais vous n'écoutez pas. Donc demain, le stream commence à 10h. C'est dingue ça, hein? Enfin, de ne pas être informé comme ça. Ok. Ils enchaîneront, c'est nous, avec une belle émission autour de l'orientation et les entretiens d'embauche avec différents intervenants. Voilà, vous voyez quand vous faites un effort, on y arrive. C'est dingue ça, hein? 14h, Samuel et Ludo continueront leur déambulation, donc j'ai 45 minutes pour bouffer, auprès de nouveaux stands, activités et expériences sur place. Oui, ben excusez-vous, ouais. C'est honteux, c'est honteux.
Mais c'est insupportable, enfin, votre attitude!
Voilà.
Mais enfin, ça va pas!
Voilà. Et donc je reprends, il y a une deuxième émission MVP à 15h. C'est ça? Ouais. Avec des jeunes gens qui ils sont pas très connus encore, hein, qui essaient de percer dans l'univers de la musique qui s'appelle Big Flo et Oli. Ouais. J'avais essayé d'inviter un groupe de rock que j'adore qui s'appelle Sac à Puce, mais ils étaient pris. Alors on m'a proposé un autre que je connaissais pas, c'est Sac à Punk, mais je connaissais pas. Donc j'ai invité Big Flo et Oli. Ok, bah, du coup je vois à peu près ce que je fais demain, quoi. Ça va être incroyable en vrai, hein. Voilà, il y en a des choses. Il est bien ce programme. À 24 ans, j'ai déjà exercé 11 métiers. C'est qui ce mytho? C'est qui ce mytho? C'est qui ce mytho? Non mais en vrai c'est cool. Donc vous l'avez compris, il y a des émissions, il y a des scènes, il y a des ateliers, il y a des stands, il y a des conférences, il y a des masterclass, il y a des surprises, il y a du, il y a c'est folie, folie, folie. Il y a des belles personnes. Regardez, mais regardez, mais regardez. Incroyable. Il y a de la musique. Il y a des beaux gosses. Il y a des beaux gosses. Il y a du job dating.
Col de co, juste de ma soeur finir.
Ah ouais, c'est bien ça. Attends, j'aime bien ce petit clip.
Ma roadmap. Prépa école de co, juste de ma soeur finance. Je fais une année de césure, histoire de faire des stages en M&A. Enfin, Jusac, tu captes. Puis hop, je scale. Je deviens partenaire, 100K à l'année, je pars à Dubaï. Tu captes? Tout ça, c'est un mindset.
Ouais, tu me captes? Bon.
Avant de faire un plan de carrière sur 30 ans, t'as le droit de tester, t'as le droit d'explorer. T'es pas obligé de tout capter maintenant. D'ailleurs, tu sais quoi? J'ai une solution pour toi.
Et si t'es en galère, tu me dis, hein. Je te cale un stage dans la holding de mon père. Alors, c'est non rémune, mais prestige. Tu captes? Ma roadmap? Prépa école de co, juste.
J'aime bien ces trucs. Il y en a d'autres des clips comme ça, je crois. C'est quoi ça? C'est un clip ça? Non, c'est pas un clip ça. Grosse annonce. C'est moi ça.
Le samedi 11 avril 2026, on lance la première édition du festival Ma Vie Pro.
Maintenant, c'est demain ça. Attends, c'est demain? Mais je vais jamais être prêt.
En partenariat avec France Travail, une journée où tu
Quoi?
viens, tu rencontres des pros, tu testes des métiers en conditions réelles comme pilote ou encore journaliste, tu te fais coacher sur les
Pilote?
problématiques de ton choix, CV, entretien d'embauche, confiance en toi, tu assistes à des talks et des tables rondes sur plein de sujets passionnants. Et tu repars avec du concret, un stage, une alternance ou même un job. Et en plus, tu retrouveras toute l'équipe de Ma Vie Pro pour une émission spéciale sur scène et plein d'autres guests exceptionnels. Alors inscris-toi, je t'ai mis toutes les infos en bio et en com épinglé. Hâte de t'y voir.
Bah, j'aimerais être aussi informé que le gars là, parce que alors, lui il a l'air de savoir de quoi il parle, hein. Waouh! Non, mais vous inquiétez pas, hein. Demain je serai prêt, hein. Ça va, j'ai tout l'après-midi et toute la soirée pour bosser, quoi. M'attendez pas en stream ce soir, par contre, hein. Je suis un peu de retard sur le festival, là. Mais tout est prêt, hein. Tout est prêt, hein. Tout est prêt. Il y a Nicolas aussi qui sera là. Big Flo et Oli, Paul de Saint-Sernin. Incroyable. Oui, ça va bosser un peu cette nuit par contre. Pourquoi il y a une photo où je veux balancer mon clavier dans la gueule de quelqu'un? C'est tellement pas moi ça. Qu'est-ce que c'est que cette DA là? Oh! Mais c'est incroyable! Mais j'ai fait tout ça moi! Journaliste, médecin légiste, chef de prout, non, chef de produit, pardon, photographe, streamer, pilote de ligne, maître de cérémonie, agriculteur, qu'est-ce qu'il y a encore? Boulanger, athlète, oh bah oui, ça c'est moi ça. Non, il n'y a pas Yakuza. Et si tu cliques, ça fait. Oh là, avec la casquette, je suis beau avec la casquette. Putain, j'aurais dit pilote, mon dieu. Et si tu cliques, ça s'arrête sur un truc, je crois. Je clique. Et 3, 2, 1. Oh la vache, photographe! Je reclique. Oh pff. Médecin légiste! Attends, je... Oh! Ah oui, bah c'est... je crois que c'est une vocation, hein. Je crois que c'est une vocation, hein. Oh, c'est bon ça. Attends, ne me dites pas que ça va le refaire une troisième fois. Oui, c'est Dexter. Hein. Attention. 3, 2, 1. J'espère que ça va pas remettre médecin Aegis. Waouh! Ça rigole pas, hein? Incroyable. Attends, je vais la retweeter celle-là. Partager la publication. Elle est bien en vrai. Comment on fait pour... Bon, je le ferai tout à l'heure. Incroyable. Samuel in shape, ouais. Et une dernière pour le plaisir. C'est déjà fait? Ah, je l'ai déjà partagé? Oh putain, je suis grave. Ouh. Incroyable. Et ça, c'est demain, ça? Oh. C'est demain, donc, ça. Incroyable. C'est bien ce truc, hein? C'est fou, ça. Bon, bah voilà. Donc, demain, ça va streamer à partir de 10h, donc. C'est ça? 10h jusqu'à 12, 13, 13h, en gros. Ça reprend à 14 jusqu'à 16, 17h, je crois. Voilà. Donc, stream. Voilà.
Après, j'irai m'écrouler dans un coin. Voilà.
Après, j'irai m'écrouler dans un coin. Je veux pas dire, mais si, sur chaque photo, impossible de savoir si tu portes un pantalon, je sachons. Je ne sais plus. J'ai fait cette séance de photos il y a longtemps. Je ne sais pas si ce jour-là, j'avais un pantalon ou pas. Merci, Benjam. Merci. Je ne sais plus. Ah non, c'est pas... Ah putain, c'est vrai, Samedi, je vais pas du tout m'écrouler. Il y a la Zilane, il y a l'annonce des jeux de la Zilane par Zerator samedi à 20h. Oh, mais je vais mourir. Ok. C'est bien. De toute façon, les meilleurs streams, c'est quand je suis crevé, je dis n'importe quoi. Vous le savez, hein. Ah. Pense à faire des siestes. Mais j'en rêve. Là, mon royaume pour une sieste. Mon royaume pour une sieste, mesdames et messieurs. Mon royaume pour une sieste. Tu crevais là, j'ai les petits yeux, ouais. Ouais. Puis alors, là, à midi, je vais voir mon épouse déjeuner vite fait. Après, j'ai un call à 14h. J'ai un gros Teams à 14h30 sur le réponse cash 2 de mardi prochain, 20h. La régalade avec Enjoy Phoenix, Baguera, PA, Kevin Tran et un invité surprise. Voilà, donc ça, j'ai une grosse réunion là-dessus. Après. Je prépare le festival MVP, là, tout ce qu'il y a à préparer pour demain, les questions, les interviews, les trucs. Cet après-midi, à un moment, je fais une petite sieste, je me remets dessus ce soir. On est bien. Donc demain, double stream depuis le festival. Demain soir, 20h, on réacte Zera. Puis dimanche, on trouvera un truc à faire. Le sommaire, bien sûr, je vous mets le sommaire, pardon. Tiens, voilà le sommaire de l'actu d'aujourd'hui. Hop là. Un gros sommaire, on aime les gros sommaires ici. Voilà. React Zera, ouais, bien sûr, on va react toutes les annonces de Zera, bien sûr. Avec son autorisation, bien sûr. Salut Alfacto. Tu peux m'en reparler à la fin du stream, peut-être, de la musique, là? Parce que là, on va partir sur l'actu. Signs of Decline. J'espère que c'est du rock. Hein? Tu m'en reparles à la fin? Ouais. Top. Merci Alexandra, tu vas bien? Le gros sommaire qui casse quelque chose. Bah, le gros sommaire qui... Oui. Il a fallu que tu mettes Artemis à la fin pour pas que je dorme à vous. Ah ouais, il y a un bel article dans Libé, là, sur le retour sur Terre des astronautes, là. C'est marrant, ça me... Moi qui suis pas plus porté que ça sur l'actualité de l'espace, là, ça m'a vraiment assez fasciné, cette histoire. Alors, on en a parlé avec les enfants ce matin. Il y avait un petit peu de Nutella là, sur la table ce matin. Je leur ai dit, hey, les enfants, vous savez que le Nutella est dans l'espace? Alors Malo, évidemment, était au courant de tout. Ils en avaient déjà parlé à l'école, avec les copains. Mais cela, il a été intrigué, là. Il pensait que je racontais des carabistouilles, parce qu'il sait qu'il a un papa qui raconte quand même pas mal de conneries. Et il m'a regardé d'un œil un peu soupçonneux, quoi. Voilà. Il a dit, comment ça, du Nutella dans l'espace? Qu'est-ce qu'il raconte encore le daron, là? N'importe quoi, encore. Voilà. Et je lui ai dit, mais si. Alors, je lui ai raconté, il y a un astronaute, une astronaute, qui avait emporté un énorme pot de Nutella, et qui s'est échappé, qui s'est fait la malle, qui a traversé la navette et il m'a regardé en mode ouais, il a traversé et Malo dit si c'est vrai ce qu'il dit. Et mon épouse toujours les pieds sur terre, oh là là, énorme placement de produit. Je lui dis mais non, c'était même pas une sponsor, c'était ils ont pas fait exprès, c'est incroyable. Ouais. Et donc il était assez, alors c'était mignon parce que Solal s'est réveillé, c'est dur parfois le réveil le matin pour les petits loulous là. Il s'est réveillé un peu la tête dans le gaz, hein, on va dire les choses. Voilà, et rien que de nous dire ce qu'il voulait manger, c'était pas, ça a été dur. Qu'est-ce que tu veux manger ce matin? Voilà. Et donc, à un moment, un peu d'autorité, on est parti sur une tranche de pain qui a pas de Nutella, parce que le pauvre n'arrivait pas à se décider. Et mon histoire de Nutella dans l'espace, eh ben, ça l'a réveillé, quoi. Voilà. Voilà. Alors, je sais pas si pour Nutella, ça a été une énorme page de pub, mais en tout cas, moi, ça a fait manger mon petit ce matin, quoi. Même si c'est pas forcément ce qu'il y a de plus équilibré le matin. Mais bon, un petit plaisir de temps en temps. Hein. Ouais, ça a... Il faut dire que l'histoire, elle est dingue quand même. Enfin, les mecs sont dans l'espace. Hello, excusez-moi si je suis nouveau, mais j'adore les matinages. Je voulais juste savoir s'il y avait un horaire à peu près. Normalement, c'est 9h15. C'est après avoir déposé les enfants à l'école. Mais là, ce matin, j'avais un petit déjeuner secret pour un projet secret de fou. Voilà. Et c'est pour ça que je suis en retard. Mais normalement, c'est 9h15, tous les matins. Voilà. De temps en temps, tous les matins. Tous les matins. Lundi, vendredi, tous les matins. C'est... Un rendez-vous secret avec qui? Je vous dirai pas. C'est secret. Zera a dit dans son dernier live que les annonces Zilan, c'est OK à React. Je sais. Mais je demande toujours, moi, par... Et les dernières, je les réacte et je lui avais demandé toujours, avant. Toujours. Toujours. Toujours demandé. Toujours. C'est pas mon contenu. Mais oui, il est OK parce que du coup, il estime que plus on en parle, mieux c'est, et plus on est de fou. Hein. Top. Bon, 32 minutes d'intro. On va y aller, les beaux gosses. Hein? Avec Lady Di, le petit-déj. Waouh. Faut qu'on parle d'actu, hein. Ok. Vous êtes prêts pour l'actu? Les pruneaux? Chaud pour l'actu? Voilà. Alors, je viens de brancher ma tablette. Il y a un monde où ça marche pas. Hein. À une époque, je vérifiais, mais là, je suis au bout de ma vie. Je vérifie plus. Attention. Suspense. Si ça se trouve, ça marche pas. Si ça marche pas, je vais me coucher. Hein. Ras-le-bol. Hein. D'être chaud? Merci, Jonencast. Merci, Benjamin. Ok, 3, 2, 1, suspense. Oh, ça marche. Bon, tant pis, je serais bien allé dormir. Alors, vous êtes prêts pour le sommaire? Allez, let's go. Je vais vous dire, soyez pas surpris, je vais dire bonjour, comment ça va, etc. Parce que c'est là que commence la revue de presse pour le podcast. Parce que pour les amis qui nous écoutent en podcast, ils n'ont pas l'intro, ils n'ont pas le before. Ils ont juste la revue de presse, straight to the point. Ils sont comme ça, les gens qui écoutent un podcast. Allez, c'est parti, j'envoie mon gros sommaire, comme le dit la Tia dans le chat. Bonjour à tous, bienvenue dans la matinée Étienne. On est vendredi 10 avril 2026. Oui, j'ai des petits yeux fermés. Oui, j'ai pas beaucoup dormi. Oui, je suis au bout de ma vie, mais je suis tellement heureux d'être avec vous parce que je kiffe ce qu'on fait ici ensemble. C'est-à-dire, on s'informe et on en parle aussi. Donc, bienvenue dans la matinée Étienne, la grande revue de presse, c'est tous les matins sur Twitch depuis 5 ans. C'est aussi en replay sur YouTube. C'est aussi en podcast audio tous les jours avec l'ami Vincent qui poste la revue de presse du matin l'après-midi à 15-16h, max. Voilà. Et donc, je salue tout le monde, les viewers de Twitch, les abonnés de YouTube et les auditeurs en podcast. Je vous embrasse bien fort. Alors évidemment, j'ai ma pelletée de mauvaises nouvelles, hein, comme tous les jours. Voici le sommaire, je vous donne l'essentiel de l'actu. Et après, on en parle. Comment tu t'informes en dehors de lire des articles de presse? Que là. Wizil me dit, mais comment tu t'informes en dehors de lire des articles de presse? Je ne lis que la presse. J'ai décrété, il y a longtemps, que la meilleure source d'information, selon moi, c'était la presse écrite. Vous avez fait ce que vous voulez, mais moi, c'est mon truc. Donc, je ne fais que ça, je lis les journaux. Alors, vous avez été nombreux, c'est un jour, à me dire, il faut parler du Liban. Il ne faut pas oublier le Liban. Vous avez raison, plusieurs jours que je surveille les articles sur ce qui se passe au Liban. Le Liban bombardé par l'armée israélienne. Et voilà, j'ai trouvé le dossier que je trouve le plus complet, le plus clair sur ce sujet ce matin, c'est la une de l'Humanité. L'armée israélienne bombarde sans relâche Beyrouth et le sud du pays. À l'heure où s'ouvrent les pourparlers entre les États-Unis et l'Iran, il y a urgence à étendre le cessez-le-feu parce que ce cessez-le-feu ne s'applique pas au Liban. Ainsi, on a décidé Israël. Voilà. Ce n'était pas un bombardement, c'était un séisme. Donc, l'Humanité, notamment, est allée chercher des témoignages. Voilà. Et on se penchera sur factuellement ce qui se passe et aussi sur le regard d'un homme, Ronny Broman, ancien président de Médecins Sans Frontières, sur ce qui se passe là-bas, hein, et qui nous dit la disproportion reste la méthode du gouvernement israélien. L'ancien médecin, l'ancien président de Médecins Sans Frontières dénonce les nouvelles exactions de l'armée aux ordres de Netanyahou, après que ce dernier a transformé le sud du Liban en nouveau Gaza. Voilà, on se penchera sur ça tout à l'heure. Un conflit qui se poursuit et qu'on n'oublie pas ici, c'est la guerre en Ukraine, bien sûr. Hein. Parfois, pour certains médias, une actualité chasse l'autre, pas ici. Donc là, j'ai trouvé un article dans Le Monde qui nous dit où en est le conflit en Ukraine et un conflit qui évolue. Donc, vous savez que M. Poutine avait annoncé qu'il allait envahir, libérer dans son champ sémantique l'Ukraine en quelques heures, sinon quelques jours. Bon, ça dure depuis 4 ans, c'est ça? Je ne dis pas de bêtises. Et là, c'est un conflit qui évolue. L'armée russe n'arrive pas à gagner du terrain. C'est une guerre de position, c'est une guerre de tranchées. Mais c'est ça, à 4 ans. Hein. Mais dans le ciel, du nouveau, et le Monde nous dit que Kiev domine désormais le ciel russe grâce à ses drones. Porté par une nouvelle génération d'engins, les forces ukrainiennes ont réalisé un nombre record de frappes en mars. Extrêmement intéressant. Il y a encore quelques semaines, on avait l'impression que même si l'armée russe avançait très lentement, voilà, elle avançait inexorablement. Voilà. Et là, quand on lit un article comme ça, on se rend compte que l'Ukraine qui a réussi à mettre en ordre de bataille son industrie pour produire des armes et notamment des drones, fait mieux que résister et est en train de faire très très mal à l'économie russe, voilà, notamment aux infrastructures pétrolières russes, hein, qui est un élément essentiel de son économie, en allant frapper grâce à ces drones, à cette nouvelle génération de drones, loin dans le territoire de la Russie. Je vous lirai ce papier tout à l'heure. Voilà. Page 14 dans Le Parisien, article très important. Ne regardez pas l'article du haut, c'est celui du bas qui m'intéresse. L'affaire Rima Hassan, dont vous avez sûrement entendu parler, hein, du nom de cette députée LFI, poursuivie récemment dans deux affaires, une histoire de tweet et une histoire de drogue. Hein, vous en avez entendu parler, je vous en ai parlé ici. Qu'apprend-on dans Le Parisien? Hein, affaire Rima Hassan, le volet stupéfiant classé sans suite, oups, il n'y a plus rien, hein, le produit retrouvé dans la valise de l'eurodéputé ne pouvait être qualifié de drogue de synthèse, Hein, c'est ce qu'elle disait depuis le début, c'est ce que disait son avocat aussi. Voilà. Il y a R, comme disent les jeunes, et le Parisien. Et le Parisien s'excuse. Le Parisien, page 14 aujourd'hui, dit « On a fait de la merde. Hein. Dans notre article sur le sujet, on s'est trompé. » Ils le disent. Alors, c'est mal de s'être trompé. Mais c'est très rare. C'est très, très rare. Moi qui consomme les médias depuis 30 ans, c'est extrêmement rare qu'un média s'excuse pour avoir rapporté une mauvaise information. Si les chaînes info, et je pense à certaines en particulier, devaient, à chaque fois que par précipitation, elles diffusent une mauvaise nouvelle, elles passeraient leur temps à le faire. C'est rarissime. Et là, on a le Parisien qui dit « On a fait de la merde, on s'est trompé, et on vous dit qu'en fait, il n'y avait rien. » Je vous lirai cet article. Voilà. Un article aussi sur le RN dans Le Figaro, qui estime que, si on en doutait encore, la normalisation du RN, elle est faite. Avec Le Figaro, qui prend deux exemples. Marine Le Pen, récemment reçue par des grands patrons, des très grands patrons, voilà, pour lesquels il n'y a plus aucun souci d'échanger avec la chef de file des députés RN à l'Assemblée, puisqu'elle n'est plus présidente du parti. Voilà. Et la une de Paris Match, vous savez, la une de Paris Match sur les amours de Bardella. Alors, ça a l'air anecdotique comme ça, et on a un peu rigolé là-dessus hier, mais ce journaliste du Figaro dit, vous voyez, ça a l'air anecdotique, et en fait, ça dit beaucoup de la normalisation de ce parti. On lira ce papier dans le Figaro. On lira Le Monde aussi, c'est sans doute l'un des derniers articles qu'on lit sur le sujet, puisque c'est terminé, hein. Vous savez que la commission de l'Assemblée nationale sur l'audiovisuel public a achevé ses travaux. On a fini notre dernier réact hier soir, la deuxième partie de l'audition de Madame Ernotte. Deuxième audition, puisqu'elle a été auditionnée deux fois, au début et à la fin. Voilà, c'est assez fort. Vous avez tout ça en replay. Hein. L'épisode 1, et je pense que l'épisode 2 va être posté par Mathieu aujourd'hui. Hein. Et on a un article du Monde qui revient sur cette commission. Voilà, audiovisuel public, la fin d'un mauvais film. La présidente de France Télévisions qui a réglé ses comptes lors de l'ultime audition de la commission d'enquête. C'était tendu. Mathieu me dit que le replay de l'épisode 2 sera posté à 17h. Dans le chat, voilà, un article signé Aude Dassonville. Alors c'est intéressant parce qu'Aude Dassonville, c'est une grande spécialiste de l'actualité des médias en France. Moi, c'est une ancienne journaliste, notamment de Télérama. C'est une journaliste dont je connais la rigueur. Et Aude Dassonville nous raconte que cette commission a fait n'importe quoi. Mais ça, vous le saviez déjà. Et puis, on finira avec Artemis. Artemis 2, voilà, on parlait de Nutella tout à l'heure, mais... Moi, je vais vous dire premier degré que je suis inquiet pour ces astronautes, puisque on sait qu'il y a un vrai sujet sur la sécurité de ces quatre astronautes au moment de leur retour sur la Terre, de l'entrée dans l'atmosphère. Hein. Et voilà, je pense premier degré à ces astronautes. Je croise les doigts, ces quatre sympathiques astronautes là, qui même nous ont fait bien rire à un moment dans un échange avec Trump. Et notre ami Stardust Air Espace nous le confirme, je suis inquiet aussi, vrai sujet sur le bouclier thermique. Voilà. Il y a un problème sur Artemis ? Non, depuis le début, en fait, on sait qu'il y a des questions sur le bouclier thermique, il y a eu des soucis. Voilà. Donc ils ont pris des mesures. Ils ont pris des mesures pour réduire le risque, mais voilà. Donc, je vous lirai ce papier, d'où le titre de Libé, le saut dans l'inconnu. Voilà. Et non pas le saut dans l'inconnu. Voilà. Donc moi, je voudrais avoir une pensée pour ces quatre astronautes. Je croise les doigts pour que ça se passe au mieux avec un amérissage au large de la Californie dans la nuit de vendredi à samedi. Voilà. Voilà pour le petit sommaire. Vous avez vu, il y a de la matière, hein ? Voilà. Des choses intéressantes, quand même. Je vous lis et on démarre. Ah, j'ai pas vu. Coin-coin, c'est quoi cette pétition ? Pour info, il y a une pétition qui tourne sur... Alors... Pour dénoncer cette... Tu peux me préciser de quelle pétition tu parles, coin-coin ? Parce qu'il y a des mots qui ont disparu dans ton message. Cradouk, j'ai un truc drôle à t'envoyer, je peux, mais envoyez-moi des... Ce qui peut fonctionner, c'est des petits chuchotements, des petits DM sur Twitch. Hein ? Mm. Ah, la petite capsule, ouais, t'as raison. Oui, mais Mathieu me demande quelle capsule on va faire pour YouTube. Peut-être rime à ça, non? Merci Pauline, merci Alpha 18, merci la Camille Masquée, merci Coralo Yamato, c'est quoi cette pute de sub? Non, peut-être Rima Hassan, non? Vous pensez quoi? Capsule, en fait, c'est un bout de la revue de presse qu'on met sur YouTube. Un coup de projecteur, quoi. Audiovisuel public, oh, on a beaucoup fait. Parce que Rima Hassan, les médias en ont beaucoup parlé. Donc je suis sûr qu'à l'heure où on parle, il y a sûrement des gens qui sont persuadés qu'il y a une histoire de drogue autour de Rima Hassan. Je suis pas sûr que tout le monde lira l'article du Parisien. Je pense qu'il est peut-être, important de faire ce travail de debunk, hein, puisque les médias se sont précipités et certains ont raconté du caca, hein, peut-être. On fait ça pour donner de la visibilité au démenti. Ok. Excuse-moi, je regarde un truc. Pourquoi j'ai cassé mon chat. Comment se fait-ce? Ouais, c'est bon, j'ai réparé. Voilà. Ok, on va y aller. Salut Defecator. Je t'avais pas vu. Merci Draft. Vous êtes incroyable. Vous êtes prêts? On y go? Sugar a mis mon lien. Je vois pas ton lien. Il est épinglé, il est où? Ah, message, ok. Ah, il y a une pétition contre la commission d'enquête? D'accord. Et qu'est-ce qu'il nous envoie, Kradouk?
C'est le lien.
Ah oui, j'ai vu, c'est le dessin. Moi, je l'ai vu, le dessin, ouais. Oui, je l'ai vu avec Bolloré. J'ai vu. Je l'avais vu. Ok. Ok. Hop, donc, il y a une pétition qui a été lancée contre la commission d'enquête? Ok. Bon, 2481 signatures. Qu'est-ce que dit la pétition? Oula, oui, alors je veux pas. Oula, mais. Ah oui, mais il y a plein de. Mais c'est pas une pétition qui a été lancée il y a un moment déjà? Lundi 9 février. Ah oui, mais si. Si, mais c'est pas. Oui, elle est pas toute neuve. D'accord, ok. Parce qu'on voit déjà des artistes qui l'ont signée, et des intellectuels, des journalistes, des historiens, Laura Adler, Fabrice Delmeda. Je vous cite les noms que je connais, Ariane Ascaride. Oui. Mais elle est pas récente. Elle date un peu. Sabrina Azoulay, Bérénice Bejo, François Berléand, Dominique Blanc, des politiques aussi, Frédéric Bredin, Nicolas Briançon. Ok. Les amis, faut y aller. On est parti. Est-ce que j'ai votre go? Je coupe un truc et on y va. Faut absolument qu'on prenne le temps de parler du Liban. Ok? On y va. Donc je voulais absolument commencer par ça. Ça fait deux jours que je cherche un article le plus clair, le plus complet possible sur le sujet. Je l'ai trouvé, c'est dans l'Humanité ce matin. La Une de l'Humanité qui nous dit que l'armée israélienne bombarde sans relâche Beyrouth et le sud du pays. Donc vous savez qu'officiellement il y a une trêve entre l'Iran et les États-Unis et Israël. Mais cette trêve, Israël l'a décidée ainsi, ne concerne pas le Liban. À l'heure où s'ouvrent les pourparlers entre les États-Unis et l'Iran, donc on est parti sur deux semaines de trêve, on verra bien ce qu'il en sortira, il y a urgence à étendre le cessez-le-feu, nous dit l'Humanité. Les faits, le 8 avril, donc c'était il y a deux jours, l'armée israélienne a mené sur tout le territoire libanais 100 raids aériens en 10 minutes. Le bilan provisoire fait état de plus de 300 morts et 1160 blessés. Attaque sans précédent par son intensité qui vise à semer le chaos et avec la coupure des axes routiers à empêcher un futur retour des réfugiés dans le sud du Liban où l'armée israélienne s'est installée. Beyrouth ne sent plus la mer, elle sent le fer et la cendre. Depuis mercredi 8 avril, l'air est un mélange toxique où l'odeur de la pierre broyée, poussière de béton qui assèche les poumons, se bat avec le parfum acide de la cordite. La capitale libanaise s'est transformée en nuage ocre où sirènes et drones saturent l'espace sonore. Ce 8 avril, en moins de 10 minutes, sans bombardement, ont visé l'ensemble du territoire libanais, donc pas uniquement le sud Liban, hein, de Beyrouth à la Bekaa, en passant par le sud dans une séquence d'une intensité inédite depuis l'invasion israélienne de 1982, puisque dans le passé, Israël a déjà occupé le sud Liban, s'en est retiré et est de retour. Dans la capitale, au moins 15 impacts majeurs ont été recensés intramuros. Dans la banlieue sud, le bilan humain encore provisoire s'élève à plus de 300 morts, 1160 blessés selon le ministère de la Santé. Derrière ces chiffres, une logique apparaît non seulement frappée, mais aussi désarticulée, un pays dans sa totalité. Alors, scène vue, chose entendue le correspondant ou la correspondante Myrna Basile de l'Humanité au Liban, Oda, qui est peut-être une femme, qui descend dans la rue après les bombardements, le visage pâle, c'est une femme, elle cherche un repère familier, mais où est Flora, ce vieux monsieur qui me disait bonjour chaque jour, il n'en reste rien, le magasin de fleurs a été pulvérisé, le vendeur a disparu, un peu plus loin, un secouriste interpelle une journaliste, vient voir, des passants sont calcinés dans leur voiture. À El Manara, où un appartement a été visé, un jeune homme hurle sa colère contre l'impuissance des dirigeants politiques. Tout le monde voit, personne n'agit. Devant un immeuble éventré, Abou Ibrahim a les yeux vides. On m'a dit que mon fils est mort, j'attends de voir ce qu'il en reste. Son calme tranche avec la scène, gravats, poussière, silence suspendu. Sur les réseaux sociaux, les avis de disparition se multiplient, visage d'enfant. Nom, numéro de téléphone, la guerre devient une liste. Sur son compte X, le porte-parole arabophone de l'armée israélienne revendique une exécution chirurgicale sensible en 10 minutes. Donc chirurgicale, comprenez, pas de victime collatérale, comme on dit, pas de victime civile. Hein. L'armée israélienne qui évoque des centres de commandement, des systèmes militaires. Voilà. Évidemment, la réalité est tout autre. Hein. Au Liban, ces systèmes prennent la forme d'ambulances immobilisées dans les embouteillages. Le ministère de la Santé appelle en urgence à dégager les routes. Les secours n'arrivent pas à circuler. Les hôpitaux sont saturés. Nous transférons des patients hors de Beyrouth pour absorber l'afflux, explique le secrétaire général de la Croix-Rouge libanaise. Ce n'était pas un bombardement, c'était un séisme, raconte Adia. Je voyais des colonnes de fumée là où il n'y en avait jamais eu, dit-elle, depuis la banlieue sud de la capitale. À Tyr, grande ville du sud, sa mère décrit un craquement continu comme si la terre se déchirait partout à la fois. La simultanéité des bombardements devient ainsi un fait stratégique. En 10 minutes, ce ne sont pas seulement des cibles qui sont atteintes, mais les points de connexion d'un pays, routes, carrefours, axes secondaires, les structures qui assurent la continuité territoriale, sont frappées en même temps. L'effet est immédiat, un territoire qui cesse d'être praticable, on ne peut plus circuler. Je ne vous lis pas tout l'article, hein. Je vous lis les passages les plus importants. Vous n'hésitez pas à lire l'Humanité et tous les autres journaux que je vous propose tous les matins. Cette attaque s'inscrit dans une séquence plus large que les habitants décrivent désormais comme une guerre des ponts. Ces dernières semaines, plusieurs axes avaient déjà été visés. Chaque bombardement coupe un peu plus le territoire. Les districts du sud se retrouvent isolés les uns des autres, puis le reste du pays. À Beyrouth, le contraste entre la diplomatie et le terrain interpelle. Alors que les États-Unis et l'Iran négocient un cessez-le-feu, le porte-parole de l'armée israélienne rappelle que les combats continuent au Liban. Le pays se retrouve dans une zone grise. Désescalade pour les puissances, intensification pour le territoire libanais. Dans le milieu diplomatique, une hypothèse s'impose. Ces bombardements préparent l'après. En détruisant les axes, on empêche le déploiement de l'armée et le retour des déplacés. Je suis désolé, me dit Legenium, je n'ai pas la souvenance des raisons de ces attaques. Je vais t'en parler, bien sûr, ce matin. C'est Il s'agit officiellement pour Israël de mettre le Hezbollah pro-iranien, ce qu'on appelle un proxy groupe qui soutient l'Iran, installé au Liban, le Hezbollah donc hors d'état de nuire. On ne reconstruit pas un pays sur des liens coupés, résume Maya, dont la famille est bloquée dans le sud. Pour le Liban, la question est désormais immédiate. Que restera-t-il à relier? Une paix signée peut-elle tenir sur un territoire dont les connexions ont été méthodiquement détruites? Alors que les chancelleries évoquent une trêve, une autre réalité s'impose. Un pays où les routes ont disparu et où la souveraineté se heurte désormais à la géographie même des ruines. Voilà pour les faits. Voilà. Donc je ne sais pas si là c'était le 8, c'était il y a 10 jours, on a évoqué une... dans les heures qui ont suivi des bombardements en baisse. On va aller voir si on peut avoir l'info, c'est-à-dire hier et ce matin. Article de France Info, publié le 9 avril, hier après-midi, 16h42. Donc il revient sur les frappes du 8. Là vous avez le nombre de morts, un graphique. Au Liban depuis le début de la guerre, vous avez la journée du 8 avril en jaune là à droite. Il y a un deuxième article que je voulais vous lire sur le sujet ce matin. C'est l'interview de Ronnie Broman. Qui est Ronnie Broman? C'est l'ancien président de Médecins Sans Frontières. Et il dénonce les exactions de l'armée aux ordres de Netanyahou après que ce dernier a transformé le sud du Liban en, dit-il, en nouveau Gaza. Lisons cette interview si vous le voulez bien. Dans le sud du Liban, destruction et ruines. À Beyrouth et dans sa banlieue, des bombardements sans préavis. Alors que les autorités locales, on l'a vu à l'instant, annoncent plus de 300 morts et 1160 blessés, le Premier ministre israélien Netanyahou a déclaré jeudi matin, donc hier matin, que son armée frappera le mouvement chiite Hezbollah partout où il le faudra, au prix de dégâts humains effroyables, fustige, dénonce Ronnie Broman, ancien président de MSF, tandis que l'ONU dénonce un carnage qui défie l'entendement. Question de l'humanité à Ronnie Broman, quelle est votre réaction face à cette attaque ? Alors même qu'était annoncé un cessez-le-feu entre Israël et les États-Unis et l'Iran. Ma première réaction, c'est l'accablement, dit-il. La sidération, la violence de cette attaque est effroyable. Elle ne fait finalement que rappeler ce qui reste la méthode favorite du gouvernement israélien, à savoir la disproportion assumée. Autrement dit, l'usage démesuré de la force pour frapper, intimider, anéantir l'ennemi, même si on voit que c'est un calcul erroné qui provoque des dégâts humains effroyables. Israël justifie ses bombardements, dit Luma, en disant cibler les terroristes du Hezbollah, parce que quelqu'un dans le chat me disait, mais Samuel, est-ce que tu peux nous rappeler pourquoi l'armée israélienne frappe actuellement le Liban? Donc, pour cibler les terroristes du Hezbollah, accusant cette organisation de se servir des civils comme de boucliers humains. Réponse de Ronnie Broman, il n'y a aucune excuse valable. Quand on voit les dommages civils causés, seul un gouvernement criminel peut se permettre d'agir de la sorte. C'est d'une triste simplicité. Il était déjà difficile, voire impossible, d'isoler le Hezbollah du reste de la population quand il était dans le sud du pays. Mais maintenant qu'Israël a provoqué le déplacement forcé de plus d'un million de personnes vers le nord, c'est-à-dire en traversant un tas de ruines, le Hezbollah se retrouve encore plus mélangé à la population. Donc c'est en toute connaissance de cause qu'Israël bombarde à tout va, estime Ronnie Broman. Vous parlez d'un nouveau Gaza, dit l'humanité. Comment les Libanais font face à une armée israélienne qui bombarde sans aucun préavis? En effet, il n'y a pas eu d'avertissement. Mais faut-il rappeler que rien ne justifie de bombarder les infrastructures civiles, même quand c'est annoncé, hein? Dans tout conflit, les belligérants ont l'obligation de distinguer combattants et non-combattants. Bah, sinon, c'est des crimes de guerre. On voit bien que dans la situation au Liban, c'est absolument impossible. Par ailleurs, même quand ces avertissements ont lieu, les bombes ne tombent pas toujours exactement à l'endroit annoncé. Les habitants ne sont donc pas toujours en mesure de partir. Certaines familles ont des parents blessés, malades, handicapés, âgés. Il y a aussi des gens qui préfèrent courir le risque d'être tués plutôt que de se retrouver errer sans fin sur des routes encombrées. Ils veulent éviter cette humiliation, cet abaissement. Peut-on faire un parallèle entre ce qui se passe aujourd'hui et l'invasion israélienne du Liban Sud déjà en 1982, que dit Ronnie Broman, nous retrouvons tous les paramètres de cette grande invasion qui avait été déclenchée de façon totalement disproportionnée, qui avait abouti à l'époque à la création du Hezbollah. Et bien là, on va radicaliser un peu plus encore les populations, et c'est peut-être d'ailleurs un but non avoué des Israéliens. Merci TNT. Déclencher des hostilités internes, des affrontements entre communautés au sein d'un pays dont l'équilibre reste toujours fragile. Au final, je crois que la stratégie israélienne est strictement simple. Qu'en pense-t-il ? Elle consiste à affaiblir tous ses voisins afin d'assurer une hégémonie militaire sur toute la région, au-delà du Liban jusqu'à l'Iran. Cela passe par l'affaiblissement de tous les pays alentours. Et s'il est possible de le faire, de les mettre à genoux militairement, de façon à assurer une sécurité qui n'a rien de politique ou de diplomatique, mais demeure purement militaire. Dernière question d'humanité sur le sujet. Cet objectif n'est atteignable qu'au mépris du droit et de la justice internationale. Et Ronnie Broman répond, c'est justement la raison pour laquelle Israël affiche un mépris total pour le droit, qu'il s'agisse du droit humanitaire, c'est-à-dire du droit de la guerre, ou de façon plus générale du droit international. À partir du moment où Israël est un régime colonial qui ne cesse d'élargir son espace national en dépossédant des voisins de son propre espace, nous sommes dans un affichage de son mépris total pour le droit international. Tout cela, comme son allié Trump d'ailleurs. Tout cela s'accentue a fortiori en période de confrontation armée avec un gouvernement israélien dirigé par un premier ministre qui fait déjà l'objet d'un mandat d'arrêt international pour répondre de crimes contre l'humanité. Il ne fait qu'aggraver son cas. Voilà pour cette interview de Ronnie Broman. Je vous lis avant d'enchaîner. Oui, Charles, vous me parlez, vous êtes nombreux à me parler d'une vidéo de Charles Villa. Et alors je m'en veux d'ailleurs parce que Charles, il m'a écrit. Et j'ai pas eu le temps de lui répondre. Excusez-moi, ça me fait penser à ça. Où est-ce qu'on s'est écrit par contre ? Où est-ce qu'on s'est écrit ? Vous aussi, vous demandez toujours quand vous parlez avec quelqu'un, ou est-ce que vous parlez par SMS, par WhatsApp ? Putain, je sais pas du tout où on s'est parlé. Zut. Insta. C'est affreux, ça. Hein ? Charles Villa. Je ne sais plus où on s'est parlé. Ah si. Donc c'est... Ouais. C'est sur Gaza. Ok. Je suis dans les temps. Je vous lis. Pardon pour cette pause. Question, est-ce qu'il y a des gens qui te contactent pour que tu parles de leur article dans la revue de presse ? Non, jamais. Non. C'est moi qui fais mon petit choix, quoi. Ma petite cuisine, qui est très subjective, je vous le rappelle. Est-ce que tu penses qu'un jour Netanyahou pourrait être arrêté et jugé, me demande Black Ajam. Je me posais la question à l'instant, quand l'article évoquait ce mandat d'arrêt international contre lui. Je me posais cette question. C'est arrivé que des chefs d'État soient jugés par la justice internationale. Hein. Je n'ai pas la réponse à cette question, mais je me pose la même que toi. Voilà, donc c'est le génium qui nous disait, je suis désolé, j'ai pas la souvenance des raisons de cette attaque. Je crois qu'on a, du coup, on s'est un peu éclairé sur le sujet. Ok. qui pourra gouverner Israël pour une paix durable dans la région? La question de Samba Tahat, elle est importante parce que mon humble avis sur le sujet, qui suis loin d'être un spécialiste de la question, c'est que la seule chose qui peut changer la donne dans la région, c'est un changement politique en Israël, un autre premier ministre, une nouvelle majorité, un nouveau gouvernement, des élections générales arrivent en Israël dans pas très très longtemps. Le risque est que dans ce contexte de guerre, Netanyahou arrive à rester au pouvoir, voilà, et que rien ne change. Rappelons qu'en Israël, il y a une opposition, que l'extrême droite n'a pas toujours été au pouvoir en Israël, et que une nouvelle donne politique pourrait changer les choses. Et à mon sens, aujourd'hui, c'est la seule chose qui pourrait faire changer les choses, quoi. Tant que les États-Unis sont derrière Israël. Clément Viktorovitch a fait un live sur la loi Yadan aussi, au passage, très intéressant parce que ça rejoint ce sujet, la loi Yadan, du nom de cette députée qui veut pousser une proposition de loi à l'Assemblée nationale en France visant à davantage réprimer l'antisémitisme. Nous sommes penchés sur le sujet hier et avons évoqué toutes les oppositions à cette proposition de loi, qui, sous couvert de mieux lutter contre l'antisémitisme, en fait, pourrait empêcher toute critique publique de la politique de Netanyahou, de l'État d'Israël, notamment contre les Palestiniens. À ce jour, il semble qu'il y ait peu de chances que ce texte soit voté. C'est le constat que nous avons fait hier, mais nous suivons le dossier. Voilà. Je voudrais parler avec vous aussi ce matin de la guerre en Ukraine, qu'on ne veut pas oublier ici. Il n'y aurait rien de plus triste et de plus grave que parce qu'elle dure, on s'y habitue, à cette guerre lancée par la Russie contre l'Ukraine pour envahir ce pays. Et on a un article dans Le Monde que je trouve très intéressant, qui nous montre, bien que le président Poutine est très loin d'avoir atteint ses objectifs, au contraire, il semblerait, gros conditionnel, grosse prudence, que l'Ukraine reprenne l'initiative sur le plan militaire. C'est en tout cas ce que nous dit cet article du Monde que je lis avec vous. Kiev domine le ciel russe grâce à ses drones portés par une nouvelle génération d'engins. Les forces ukrainiennes ont réalisé un nombre record de frappes sur le territoire russe, notamment les installations pétrolières, en mars. Voilà. Lisons cet article. Pour la première fois depuis le début de l'invasion russe en février 2022, donc plus de 4 ans, 17h équinoctium pour l'épisode 2. L'Ukraine a surpassé la Russie au cours du mois de mars en nombre de frappes en profondeur contre le territoire ennemi. En mars, l'Ukraine a davantage frappé la Russie en profondeur que l'armée russe a frappé le territoire ukrainien. C'est nouveau, hein ? Ce renversement de tendance pourrait favoriser Kiev dans la guerre d'usure que lui livre Moscou depuis 4 ans, les frappes ukrainiennes visant principalement les infrastructures d'exportation d'hydrocarbures russes, soit le nerf de la guerre. On a une économie russe aujourd'hui qui est en grande partie tournée vers l'effort de guerre, avec parmi le principal moteur des ressources du pays, l'industrie pétrolière, l'Ukraine est en train de taper dessus. Le ministre Terre de la Défense russe a déclaré avoir abattu un record de 7347 drones ukrainiens en mars. 7347 drones ukrainiens en mars, soit une moyenne de 237 projectiles par jour. Fidèle à sa politique de désinformation systématique, Moscou ne communique jamais à propos de ses échecs et ne fait pas mention des projectiles qui, eux, ont atteint leur objectif. L'armée de l'air ukrainienne comptabilise 6462 drones russes, 138 missiles de divers types employés au cours du même mois. Elle affirme de son côté avoir abattu, détourné environ 90% des drones, 73% des missiles. L'ampleur et l'étendue des frappes rendent impossible une vérification indépendante des chiffres diffusés par les deux belligérants. Profitant du brouillard de la guerre, chacun a tendance à exagérer les réussites et à sous-estimer les échecs. Mais le renversement de tendance est constaté de part et d'autre. L'intensité des attaques continue d'augmenter, note un expert militaire russe, Il observe que les deux camps optent pour des tactiques différentes. La Russie effectue des frappes massives ponctuelles pour saturer la défense antiaérienne ukrainienne, tire parfois jusqu'à près de 1000 drones par jour, comme le 24 mars, tandis que l'Ukraine en tire quasi chaque nuit entre 250 et 400. Pour cet expert russe, le problème principal côté russe concerne l'épuisement de ses stocks de missiles antiaériens et les conséquences se font sentir. Si auparavant les drones ukrainiens parvenaient à détruire une seule cible par nuit, il s'agit désormais plutôt de 4 cibles minimum détruites par nuit. Il relève un autre déficit russe, celui des missiles d'attaque, dont 138 seulement ont été tirés en mars sur l'Ukraine contre 288 le mois précédent. Le blogueur pro-Kremlin Sergei Kolyachnikov déplore la montée en gamme de la nouvelle génération de drones ukrainiens qui fonctionnent de jour comme de nuit, sont inaudibles, sauf dans les dernières secondes lorsqu'ils piquent vers la cible. Ils ne sont pas repérés par les détecteurs habituels et sont insensibles aux contre-mesures électroniques. Ce blogueur russe avance l'hypothèse que ces drones militaires de haute qualité et produits en série sont pilotés par une IA. Comme d'autres observateurs russes, il affirme que ces engins sont équipés de terminaux Starlink fonctionnant dans l'espace aérien de la Russie. Rappelons que le système de communication Starlink, satellitaire américain, Musk, n'est plus utilisable par l'armée russe depuis le mois de février. Salut 77. Merci Moulbit. Le basculement en faveur de l'Ukraine est acté, estime la chaîne Telegram ukrainienne Drone Bomber, l'un des rares groupes d'experts en sources ouvertes spécialisés dans l'analyse de cette guerre aérienne. Les forces armées de Kiev ont lancé depuis mars environ 3000 drones de plus que les forces armées russes. Je lis l'article. S'étant longuement préparé à la guerre, Moscou disposait au début des opérations de l'opération de l'invasion d'un avantage massif concernant l'arsenal et l'expérience. Kiev a eu besoin de 2 années pour adapter sa stratégie, concevoir ses propres armes et équipements et produire en série, avec du côté ukrainien une économie qui s'est mise également en ordre de bataille pour soutenir l'effort de guerre. Le véritable démarrage de la campagne aérienne ukrainienne ne s'est produit qu'en janvier 2024, vous voyez c'est très récent, lorsqu'ont été observées pour la première fois des frappes répétées contre les usines d'armement et l'infrastructure pétrolière et gazière russe. T'as loupé un bout de l'article là. Oui, oui, depuis 5 ans je lis des parties d'articles, je ne vous lis pas les articles dans leur intégralité, je vous lis les passages essentiels. Si vous voulez lire les articles dans l'intégralité, il faut lire ces journaux, les acheter, s'y abonner si vous pouvez, les soutenir. Si vous ne lisez pas les journaux, si vous ne les achetez pas, si vous en avez les moyens, ces journaux vont disparaître, et il vous restera que les chaînes info et internet, et ce serait bien dommage. Aujourd'hui, plus de 40% des capacités d'exportation de Moscou ont été mises hors d'usage par ces frappes. En touchant le second exportateur mondial de pétrole brut et le premier en produits raffinés, cette guerre aérienne a des conséquences sur les prix mondiaux de l'énergie. Voilà. Le 31 mars, en plein conflit dans le Golfe Persique, le président ukrainien Zelensky a indiqué avoir reçu des messages de certains partenaires demandant une réduction des frappes contre le secteur pétrolier russe. Voilà. Mais mercredi 8 avril, donc il y a 2 jours, l'Ukraine restait ferme, renvoyant la balle dans le camp de Moscou. Si la Russie est prête à ne pas frapper les infrastructures énergétiques ukrainiennes, alors nous n'attaquons pas les leurs, a déclaré M. Zelensky. Voilà pour les dernières infos que je trouve extrêmement intéressantes. Alors non seulement je ne vous lis pas tous les articles, mais je vous lis évidemment un journal comme Le Monde, c'est 40 à 50 pages par jour. Et là, par exemple, dans Le Monde, je vous lis aujourd'hui 2 articles. Et qu'une partie de cet article. Vous n'imaginez pas la richesse d'actu d'un quotidien. C'est un journal quotidien, c'est 30, 40, 50 pages. Merci Drakeos pour le raid, j'espère que tu vas bien. C'en est où avec Monsieur Alloncle, Drakeos? Tu m'as fait rêver, moi. Donc 30, 40, 50 pages. Et là, vous voyez, Le Monde, par exemple, on va parcourir 2 articles. Quoi. La matière est gigantesque, quoi. Tous les jours. En tout cas, Drakeos, j'espère que tu vas bien, mon ami. Il Il doit venir, mais repousse à chaque fois. Hein. Parce que Drake Eos a invité Charles à l'oncle sur sa chaîne Twitch. Voilà. Et il dit qu'il doit venir, mais il repousse à chaque fois. Ouais. On attend avec impatience. À mon avis, il a peur de toi. Comment ça, c'est offert ? Nefa me dit, d'ailleurs, en parlant d'abonnement aux journaux papier en Suisse, c'est offert à nos 18 ans. Du coup, je fais mon Samuel Etienne maintenant. C'est vrai ? À 18 ans, tu as des abonnements gratuits en Suisse à des journaux ? C'est folie, ça. C'est bon. Ah oui, oui, Aude Littler, l'article sur le transsibérien, il est génial. Ton message me fait bien plaisir. Enfin, je lis ton message parce que il reflète aussi mon prisme à privilégier la presse écrite parmi les sources d'information. À force de suivre tes revues de presse, ça m'a poussé à être que curieux, me dis-tu. J'ai fini par me prendre un abonnement aux applis du Monde et j'adore tous les dossiers et documentaires qu'il y a, les récits en parfois plusieurs articles. Récemment, un super récit le long du transsibérien. C'est effectivement dans la dernière édition du Monde, d'ailleurs, je crois. Je peux te le montrer. Ah non, le Monde, je suis obligé de capturer le truc. Je pourrais pas te le montrer ce matin. Et c'est vrai que l'article est incroyable. C'est vrai que l'article est incroyable. L'Asilane, tu vas à l'Asilane ? Ouais, j'ai vu ça, ouais. Moi, je sais pas encore. Merci, El Famigno. Je vous lis sur l'Ukraine et on enchaîne. Je recherche ton message MMZ parce que je trouvais qu'il résumait bien ce qui se passe. Je vais le retrouver. J'espère. Voilà, aujourd'hui Zelensky semble clairement avoir plus de force et plus facilement imposer ses termes au détriment de Trump et de Poutine. Il fait plus que résister. Oui. Et en même temps, c'est intéressant que tu parles que de Zelensky parce que Zelensky, ça fait 4 ans que le pays est en guerre. Hein. Politiquement, plus le temps passe et plus il s'affaiblit politiquement en interne aussi. Avec de plus en plus de voix qui s'élèvent pour contester tout ou partie de son. De sa politique, de son pouvoir, de ses décisions, quoi. Donc ce conflit qui dure, il use aussi le pouvoir politique de Zelensky. Et à un moment, ça aura peut-être des conséquences. Et ça, c'est un sujet que je surveille pour qu'on ne passe pas à côté. Voilà. Allez, on va parler de Rima Hassan maintenant. Et on va parler des amis de YouTube. Vous allez comprendre pourquoi, parce que je pense qu'il est important de donner ces infos. Amis de YouTube, bonjour, merci d'être là. Vous êtes dans la revue de presse que je fais tous les matins sur Twitch et avec la commu, on s'est dit que parmi toutes les actus du jour, là, que vous pouvez voir dans le sommaire, il pouvait être intéressant de partager cette info sur Rima Hassan, la députée européenne LFI, parce qu'on a beaucoup parlé dans l'actualité de cette élue ces derniers jours et on a notamment entendu qu'elle était accusée, soupçonnée de consommer de la drogue. Voilà. Eh bien, on apprend dans Le Parisien ce matin que le volet drogue, le volet stupéfiant, parce qu'elle est poursuivie par ailleurs pour un tweet, est classé sans suite. Et le journal Le Parisien, qui a été un des médias qui ont rapporté cette information selon laquelle il y avait de la drogue dans le sac de Rima Hassan, le journal Le Parisien, fait plus que dire que ce volet stupéfiant est classé sans suite, le journal Le Parisien dit « on a merdé ». Voilà. Et c'est assez rare pour le souligner qu'un média qui se trompe le dise clairement. Voilà. Ça n'arrive pas assez souvent à mon goût et c'est dommage parce que cette transparence, elle honorerait les médias et elle serait de nature, je crois, à renforcer la confiance des Français, des lecteurs, des auditeurs, des téléspectateurs avec ces médias. Ils n'ont pas dû avoir le choix. Mondrus marche mort. Si tu listais, prends une chaîne d'infos. Si tu listais toutes les erreurs, toutes les approximations, toutes les fausses informations diffusées par jour par une chaîne d'info. Parce que ça bosse trop vite, parce que ça vérifie pas, parce qu'on veut donner l'info avant les autres. À 8h, on donne une info, à 8h30, on en donne une autre, c'est pas grave, c'est pas la même, ça fait une info de plus. T'inquiète, les médias, il n'y a pas grand monde qui les oblige à corriger un travail qui est mal fait, qui est un travail humain, qui est un travail subjectif, qui est un travail qui peut être, dans lequel il peut y avoir des erreurs, comme tout métier. Donc, tu es d'accord qu'ils font de la désinformation ? Non, il faut écouter. Parfois, tout simplement, c'est parce que les gens travaillent mal. Désinformer, ça implique un acte volontaire. Il y a des gens qui désinforment volontairement. Je crois, dans les médias, il y a des médias rigoureux et sérieux qui désinforment aussi, mais parce qu'en fait, à un moment, ils n'ont pas bien bossé. Ils ont pris pour argent comptant une info qui n'était pas vérifiée. Ils ont donné du crédit à une source qui, en fait, s'est trompée. Donc, des erreurs dans les médias, il y en a tous les jours. Dans les médias rigoureux et sérieux. Des erreurs dans des médias pas sérieux, c'est pas tous les jours, c'est toutes les minutes. Vous avez même certains politiques qui sont des spécialistes. Vous avez aussi des comptes sur les réseaux sociaux qui ne se trompent pas de temps en temps, qui se trompent tout le temps, H24. Voilà. Donc, si vous cherchez vraiment les sources de désinformation, vous savez où aller les trouver. Mais là, on a un journal qui a fait de la merde. Et qui le dit. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Affaire Ima Hassan, hein, le vol est stupéfiant, classé sans suite. Le produit retrouvé dans la valise d'eurodéputé ne pouvait être qualifié de drogue de synthèse. Voilà. Article de Denis Courtine et Jean-Michel Décugis dans Le Parisien. Il n'y avait pas de drogue dans la valise de Rima Hassan, c'est ce qu'a annoncé ce jeudi son avocat, maître Vincent Brengart, information confirmée dans la foulée par le parquet de Paris. Donc pour ceux qui n'ont pas compris, hein, la justice dit aujourd'hui il n'y avait pas de drogue dans la valise de Rima Hassan. Le ministère public abandonne donc la poursuite pour détention de stupéfiants qu'il avait initiée pourtant la semaine dernière à l'encontre de la députée européenne insoumise. Cette décision vient mettre un terme définitif à la diffusion depuis plusieurs jours de fausses informations portant gravement atteinte à la réputation de Mme Rima Hassan ainsi qu'à la formation politique LFI à laquelle elle appartient, se réjouit son avocat, son conseil, qui a fait savoir que des plaintes sont à l'étude concernant les médias et personnalités ayant diffusé ces informations. Retour sur cette affaire. Le jeudi 2 avril, convoquée dans les locaux du 2e district de la PJ, la police judiciaire, la députée insoumise est aussitôt placée en garde à vue pour apologie du terrorisme, parce qu'elle est convoquée pour un tweet, hein, pour ceux qui connaissent l'histoire, qu'elle a envoyé le 26 mars. La garde à vue est révélée dans nos colonnes, donc du Parisien, et confirmée par toute la presse. Comme du reste, quelques heures plus tard, l'ajout d'une autre infraction par le parquet de Paris, sa détention de stupéfiants. Sur quelle base ? Les policiers ont en effet trouvé dans la valise de Rima Hassan deux produits suspects. L'un ne pose pas vraiment de problème, c'est du CBD. Alors certes, le taux de THC se révélera très légèrement supérieur à la norme autorisée. Nous ne l'avons même pas évoqué, dit le Parisien. Concernant l'autre produit, en revanche, nous avons écrit, donc le Parisien dit, nous avons écrit qu'il s'agissait de drogue de synthèse, ce qui était faux. Alors vous en pensez ce que vous voulez, mais un média qui, noir sur blanc, dit « ben on a merdé », c'est très rare. Pourquoi l'avoir écrit alors ? Car le test pratiqué lors de la garde à vue était positif à la catinone de synthèse, principe actif d'un grand nombre de drogues, justement, de synthèse. Le soir même, après avoir attendu la fin de la garde à vue, le parquet de Paris était même plus précis en parlant de 3 MMC, drogues à base de catinone de synthèse. La fouille des effets de Rima Hassan a révélé la présence de matières s'apparentant d'une part à du CBD, hein, ce qui n'est pas illégal en France, vous le savez, et d'autre part de la 3MMC sur lesquelles elle a été interrogée, annoncé ainsi par communiqué de presse le ministère public. Ces éléments sont disjoints et feront l'objet d'une procédure distincte. Cette précision étonnait l'expert que nous avions contacté, dit le Parisien, Pour lui, il était peu probable de pouvoir déterminer aussi rapidement de quelle drogue il s'agissait, entre la 3-MMC, la 2, etc. Et ça, quelqu'un dans le chat nous l'avait dit, ça, en disant c'est impossible, on peut pas le déterminer aussi rapidement. Quelqu'un nous l'avait dit dans le chat quand il y a quelques jours, on avait parlé de ça. C'est pour cette raison que nous avions seulement parlé de catinone de synthèse, prudence insuffisante, dit le Parisien, car le test pratiqué lors d'un placement en garde à vue n'est qu'un test d'orientation, nous explique le même expert que nous avons contacté ce jeudi. Voilà. En gros, le Parisien a trouvé un expert qui leur a expliqué pourquoi ils se sont trompés et pourquoi ils n'auraient pas dû écrire aussi vite et rapporter une fausse information en voulant aller trop vite. C'est un peu comme lorsque vous faites un alcotest lors d'un contrôle routier, explique cet expert. Il y a un premier test qui vous dit si vous êtes positif ou pas, mais il n'est pas complètement fiable et il y a une marge d'erreur et il faut des analyses plus poussées pour être catégorique. Le parquet, seule autorité habilitée à faire une communication légale, s'est tue pendant toute la garde à vue malgré nos sollicitations. Il a annoncé qu'il ouvrait une enquête du chef de violation du secret de l'enquête et de souligner la peine de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros que nous encourons, le Parisien, qui dit ben là on peut être condamné. Quant à Rima Hassan, elle est convoquée au tribunal le 7 juillet, cette fois pour le tweet pour apologie de terrorisme. Voilà. Voilà pour l'histoire. Quelqu'un me dit, c'est pas tellement le Parisien qui doit être blâmé, c'est le parquet. Alors, quand on lit l'article du Parisien, c'est pas tout à fait ça. Il semblerait à un moment qu'il y a eu des fuites. D'ailleurs, la fuite a été identifiée, je crois. Donc, il y a eu des fuites venant du milieu judiciaire vers certains médias, donc une source, comme on dit. Hein. Si ma mémoire est bonne, d'après ce que j'ai lu, parlons avec beaucoup de prudence, mais un magistrat qui a fait fuiter l'information selon laquelle il y avait de la drogue qui a été retrouvée dans les affaires personnelles de Rima Hassan. Voilà. Alors, l'erreur journalistique ici, elle est de faire confiance à cette source. Hein, et de ne pas attendre, par exemple, la confirmation de cette information quelques heures ou quelques jours plus tard, ou la confirmation officielle, par exemple, ou alors la confirmation par une troisième source. Voilà. Donc, il y a fuite du secret de l'instruction, hein, ce qui est interdit, ce qui est illégal. Il y a publication, peut-être sans vérification suffisante. Par exemple, le Parisien nous dit clairement dans cet article que s'ils avaient parlé plus tôt à cet expert contacté jeudi, nous sommes vendredi, ben, l'expert leur aurait dit ben, non, c'est pas possible, on peut pas avoir ces résultats si vite. Voilà. Donc il y a précipitation, il y a erreur, et il y a un média qui dit ben, là, on a merdé. Je dis souvent, je radote un petit peu, c'est à cause de mon grand âge, que un des ennemis principaux de la qualité de l'information, c'est la précipitation. C'est la précipitation. C'est plus un média veut aller vite, plus il prend le risque de se tromper. Voilà. Et Internet et les chaînes info ont accéléré le temps de l'info. Avant, vous aviez un JT par jour, vous aviez un journal qui sortait tous les jours, vous aviez 24 heures entre les deux, et les journalistes avaient un petit peu de temps pour faire leur métier. Aujourd'hui, il y a une course à la rapidité qui fait que chaque média veut être le premier à sortir une info. Ça crée du trafic, ça crée du clic. Vous-même, si vous êtes consacré à... Si on vous montre 10 sites internet de 10 médias, voilà, si on a un qui vous dit Rima Hassan a de la drogue dans son sac et les 9 qu'on parle pas, eh ben c'est humain. Voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne. On va cliquer sur le site qui vous dit que Rima Hassan a de la drogue. Voilà. Et cette course à l'audience, et cette course à la rapidité, elle provoque ça. Quand on veut aller trop vite, on se trompe. Parfois. Voilà. Ce qui est très rare, par contre, c'est qu'un média le reconnaisse. Et ça, pour lire les journaux et vivre dans cet univers depuis très longtemps, c'est très rare. Enfin, c'est pour ça que je vous lis cet article du Parisien. Ce qui n'excuse pas l'erreur, hein, mais c'est très très rare. Pourquoi les médias n'emploient pas le conditionnel au moins parisienne, par exemple? Mais ils devraient le faire, t'as raison, ils devraient le faire. Je vous lis. Alors, à la une des crises, c'est pas qu'une question de précipitation, il y a aussi une intention politique derrière. Si tu penses que le Parisien est en croisade contre LFI, moi j'ai pas d'informations en ce sens. Tu as peut-être des éléments pour nous le démontrer. Mais ne sombrons pas dans la même erreur que les médias qui font des erreurs, c'est-à-dire affirmer des choses sans avoir de preuves, de sources pour le dire. Si tu penses que le Parisien est engagé dans une croisade anti-LFI, c'est intéressant, mais il va falloir le prouver, comme les médias doivent prouver aussi les informations qu'ils mettent en avant. Un défécateur nous le dit, hélas, une étude en 2018 avait mesuré que sur les réseaux sociaux, les démentis se diffusent 6 fois moins que la désinformation initiale. Ouais, c'est pour ça que je vous ai mis cet article en avant, justement, parce que je voulais qu'on en parle. Ouais. Je vous ai donné cet exemple personnel il n'y a pas longtemps, dans les nombreux tweets pas très sympathiques qui ont pu me cibler ces derniers temps. Un internaute a dit je ne sais plus quoi sur je ne sais plus quelle affaire. En m'accusant à tort de quelque chose, ce tweet a été liké par des milliers de personnes. Quelques jours plus tard, cette même personne, ce même compte, pour une raison que j'ignore, fait un deuxième tweet en disant bah, excusez-moi, je me suis trompé, j'avais pas compris l'info, et voilà ce qui s'est passé réellement. Voilà, ce qui est rarissime aussi sur internet, je sais pas ce qui s'est passé dans la tête de ce monsieur. Et ce deuxième tweet de la même personne sur le même compte a été liké par genre 10 personnes, plusieurs milliers de likes sur la fausse information, le même compte, la même personne, le même système, 10 likes. Voilà. C'est pas la vérité qui intéresse les gens. C'est le scandale. Voilà. Effectivement, le combat est un peu compliqué du coup. Sans doute à cause de l'algo, effectivement. Je vous lis. Je vous lis. Hein. Après, vous connaissez mon regard sur les journaux. Là, par exemple, je souligne une faillite et une erreur, pour le coup reconnue par le Parisien. Ces journaux sont imparfaits. Là, on a une preuve sous les yeux. Il y a derrière un journal comme le Parisien, Figaro, La Croix, Le Monde, Libération, il y a des rédactions de plusieurs centaines de personnes à chaque fois. Donc, des moyens importants de gens passionnés par leur métier, des hommes, des femmes, qui essayent de nous informer de la façon la plus qualitative possible, avec le plus de rigueur et d'honnêteté intellectuelle possible. Ouais, ça, avec plus ou moins d'honnêteté intellectuelle, ça dépend, bien sûr. Il y a des médias qui sont engagés, il y a des médias qui ont des lignes éditoriales, il y a des médias qui ne se cachent pas de privilégier certaines valeurs, ils ne s'en cachent pas, je parle de la presse écrite. Parfois, ils font bien leur métier, parfois, ils font moins bien leur métier. Les sources d'information aujourd'hui, elles sont multiples. Elles ont explosé. Voilà. Avant, on n'avait que la presse écrite, et puis la radio est apparue, et puis la télévision, et puis il y a eu la multiplication des chaînes, et puis il y a eu Internet. Et aujourd'hui, tout le monde est journaliste. En tout cas, tout le monde peut être émetteur d'infos. Tout le monde peut, sur ses réseaux, sur son Insta, son X, son TikTok, peut, s'il le veut, mettre une info en avant. Voilà. Et vous avez des citoyens sur internet qui émettent des informations qui parfois ont un énorme retentissement. Voilà. Alors, comment s'y retrouver aujourd'hui dans toutes ces sources d'informations, c'est une mission quasi impossible. Dans cette jungle de la production d'informations, voilà, moi j'ai la faiblesse de croire que il y a certains médias traditionnels comme les journaux de presse écrite que je lis qui ne sont pas parfaits, qui sont faillibles, qui ont leurs biais conscients ou inconscients, qui font des erreurs, comme ici le Parisien. Voilà. Mais derrière, il y a une histoire, un passé de plusieurs dizaines d'années de travail, des rédactions, des collectifs, des vérifications, des chaînes de vérification qui parfois ne marchent pas, la preuve. Mais au moins, vous savez qui vous parle. Voilà, par exemple, si vous allez voir l'article, on peut faire l'exercice. Si vous voulez aller voir l'article du Parisien qui a donné la mauvaise information, là, vous allez avoir une signature en bas de cet article. Voilà. Et le Parisien peut être poursuivi. Voilà. Et c'est le directeur de la publication du Parisien qui peut être poursuivi en justice si Rima Hassan, par exemple, engage des poursuites. Voilà. Donc, un journal, c'est déjà un émetteur d'infos identifié. Vous savez d'où ça vient, vous connaissez le nom du journaliste, hein, et si besoin, vous savez qui poursuivre. Et il y a une chaîne de production derrière qui essaye de tendre à l'honnêteté et à la rigueur, et qui parfois n'y arrive pas, mais qui essaye. Au moins, vous savez d'où vient l'info. Hein. Je préfère cette source-là à une info qui pop un moment sur Internet, dont je ne sais pas qui est derrière. Alors, moi, je suis pour le pseudonymat, parce qu'il faut protéger la liberté d'expression de chacun. Mais le problème du pseudonymat, c'est je ne sais pas qui me parle, voilà. Je ne sais pas si cette info est vérifiée, je ne sais pas si c'est un travail collectif avec des personnes s'il y a eu plusieurs personnes pour travailler sur l'info, parce que plus vous êtes nombreux à travailler sur une info, plus il y a de garde-fous pour vérifier qu'une info est vraie ou fausse. Donc je ne sais pas comment c'est fabriqué. D'où cette méfiance de base, voilà. Et qui fait que j'ai tendance à privilégier ces médias dits traditionnels, qui par ailleurs entre eux ne sont pas d'accord, ont des lignes éditoriales différentes, et j'ai la faiblesse de croire que quand je lis sur un même sujet un article de l'Humanité, du Figaro, de la Croix et du Parisien, les différents éclairages font que, ben, par ce travail de recoupement, de mise en perspective, on va s'approcher d'une info la moins erronée possible, quoi. Voilà. Allons voir l'article du Parisien, si vous voulez. On peut faire cet exercice qui date, je crois, de jeudi. Tenez. Jeudi, c'était quand ? C'est vendredi ? Tu crois que c'est vendredi ? Vendredi 8 avril ? Non, c'est pas jeudi, moi. Tu dirais vendredi ? Parce que tu... 3, le 3 ? Ah, le 3 ? Okay, alors c'est là. Les éditions précédentes. Pourquoi je peux pas revenir plus. Ah, voir plus. Le 3. Faisons l'exercice. Prenons le temps, on est sur Twitch. T'es sûr que c'est le 3? Attends, je vérifie la date. Vous êtes sûr de la date? Si on lit tous les Parisiens sur une semaine, on va pas y arriver. Quelqu'un... Non, et sûr de la date. Ok, donc je télécharge le Parisien du 3 avril. Okay. Est-ce qu'il y a un appel de une sur... Voilà, effectivement, il y a l'appel de une sur Rima Hassan. Donc l'appel de une, c'est l'info est à la une, il n'y a pas l'article, mais on a Rima Hassan en garde à vue. Bon, ça parle pas de drogue, mais on a l'info qu'elle est en garde à vue. On va page 6. Voilà, on a donc un article qui fait toute la page. Voilà. Qu'est-ce que vient foutre l'article sur Bompard là ? Ah oui, sur LFI, d'accord, ok. Voilà, c'est un article très très court. Voilà, c'est un article très très court. Il y a deux petites colonnes, mais il prend toute la plage avec la photo. Voilà. Et que dit l'article ? Rima Hassan dans la tourmente. Quelques grammes de drogue de synthèse ont été retrouvés ce jeudi matin dans le sac de la députée européenne. Il n'y a pas de conditionnel. Il y aurait dû y avoir un conditionnel. Il n'y a pas de conditionnel. Ont été retrouvés, c'est un indicatif. Ce n'est pas selon, c'est une affirmation. Voilà, et là c'est une erreur. Là, il y a un manque de rigueur dans le truc. Voilà. C'est pas aurait été retrouvé et en sourçant une source, c'est a été retrouvé. Peut-être que l'article d'ailleurs prend un peu plus de précautions, mais là dans le titre il n'y a pas de précaution. Si on rentre dans l'article. Ce qui était inattendu, c'était donc la présence d'un produit stupéfiant dans les effets personnels de l'élu. Il s'agirait, là il y a un conditionnel, de près de 2 grammes de drogue. La fouille des effets de Rimasan a révélé la présence de matières s'apparentant d'une part à du CBD et d'autre part à la 3-MMC, utilisée notamment dans le cas du chemsex. Voilà. S'apparentant, vous voyez, déjà, il y a plus de précautions déjà. Difficile d'être catégorique aussi rapidement, nous a expliqué un expert. Les drogues à base de catinone sont utilisées plus globalement dans un cadre festif. Elles favorisent le rapprochement physique. Bon, les infos, il y en a très peu, hein, vous voyez. Le problème, c'est que là, on a un conditionnel. C'est là où il y a un problème. Il y a un conditionnel dans l'article. Il s'agirait de près de 2 grammes de drogue, mais ce conditionnel n'est pas présent dans le sous-titre ici. Quelques grammes de drogue de synthèse ont été retrouvés ce jeudi matin. Voilà. Alors après, on a un autre souci dont je vous ai déjà parlé. Dans les journaux, les titres, la plupart du temps, ne sont pas écrits par les journalistes. Donc, le titre de cet article, voilà, n'a pas été écrit par Denis Courtine, Pierre Moret et Jean-Michel Descugis. Voilà. Et ça, c'est un vrai problème. C'est que dans la plupart des journaux, il y a les journalistes qui écrivent leur article et après, il y a des gens qui passent derrière, des secrétaires de rédaction ou la rédaction en chef, qui font le titre. Voilà. Et on essaye de faire des titres un peu incitatifs, qui vont donner envie de lire l'article. Et le conditionnel qui est là dans l'article, eh bien, il n'est pas là dans le titre. Voilà. Et ça aussi, et ça, je l'ai déjà dénoncé. Vous avez parfois des articles qui sont sur le fond sans reproche possible, et vous avez un titre putaclic, disons-le, un titre de merde, hein, qui va vous donner envie de lire l'article parce qu'il est un petit peu un peu shiny, voilà. Et c'est du clickbait, quoi. Et c'est un enfer, en fait, parce que il y a des gens qui lisent que les titres, parce qu'il y a des gens. Même moi, quand je lis un journal, ben, je lis pas tous les articles. Je lis les articles qui m'intéressent. Voilà. Et ça, c'est un vrai problème. Voilà. Vous voyez, par exemple, là, dans l'article, ben, il y a de la prudence, il y a du conditionnel, mais il n'y en a pas dans le titre. Voilà, bon, je m'arrête sur ça, mais tout ça pour vous dire que on pourrait avoir tendance à penser que derrière tout ça, il peut y avoir de la manipulation, une intention politique, par exemple, avec une croisade anti-LFI. On peut aussi se dire qu'à un moment, il y a des gens qui font pas bien leur travail. Voilà. Je pense que vous avez compris mon propos. On l'enchaîne ? Enfin, en tout cas, je voulais vous mettre cet article en avant dans la revue de presse pour que vous compreniez que une info, quand on la reçoit, il faut aussi savoir la remettre en cause. Voilà. Un député UDR dont j'ai étudié le travail récemment de façon approfondie, a pu émettre un nombre impressionnant de fausses informations, de fake news, de mensonges sur ses réseaux sociaux ces dernières semaines, ces derniers mois. Voilà. Doucement, progressivement, jour après jour, tout ça est en train d'être débunké. Hein, et beaucoup de voix se sont élevées, y compris au sein de je crois que c'est dans une commission parlementaire, donc de sa commission, pour dénoncer les erreurs et les mensonges de cette personne. Mais combien de personnes qui auront vu les tweets de cette personne vont rester sur la première info et pas sur les démentis. Voilà. Le mal est fait. On est confronté à ce défi aujourd'hui. Voilà. Comment? Quel crédit apporter à une information? Pourquoi lui le croire? Pourquoi lui ne pas le croire? Voilà. C'est un vrai sujet. C'est ce défi que nous devons relever en tant que citoyens qui sommes à la recherche d'une information de qualité. Allez, on enchaîne. Avec le Rassemblement National. Tiens, on passe de LFI au RN avec un article dans le Figaro qui nous dit que ça y est, la normalisation du RN, c'est fait. Voilà. Bon, alors, c'est pas vraiment nouveau ce débat sur la normalisation du RN, mais on a deux arguments que je trouve assez intéressants, évoqués par un monsieur qui s'appelle Paul Lobacher dans le Figaro, qui dit Marine Le Pen, Jordan Bardella, la normalisation par les élites, et qui qui prend deux exemples pour nous expliquer que le RN est définitivement devenu, aux yeux de certains en tout cas, un parti comme les autres. Le dîner était inscrit à l'agenda depuis longue semaine. La une de Paris Match n'a pas été conçue du jour au lendemain. La collision des deux événements, donc un dîner et une une de Paris Match, dont je vous ai parlé déjà hier, cette collision des deux événements en moins de 48 heures s'apparente à un tremblement de terre, estime le journaliste, aux répliques impossibles à mesurer, car dans à peine plus d'un an, il y aura la présidentielle de 2027. Que manque-t-il à Marine Le Pen et Jordan Bardella à l'aube du grand rendez-vous de la politique française ? Peut-être l'achèvement total de la normalisation du Rassemblement national. C'est potentiellement ce qu'il vient de se passer. En ce début de mois d'avril, ils étaient 13 grands patrons, femmes et hommes membres du club informel entreprise et cité, à avoir reçu Marine Le Pen pour dîner au restaurant Drouin, okay, le restaurant qui accueille le prix Goncourt, comme l'a révélé le Nouvel Obs. C'est une info du Nouvel Obs qui est sourcée, citée par le Figaro. Marine Le Pen et Jordan Bardella, qui ne dévoilent jamais qui ils voient, avaient déjà rencontré 4 de ses patrons. C'est la concrétisation de notre travail depuis 3 ans, mais à un niveau spectaculaire, souffle un conseiller de Marine Le Pen, qui a assisté au dîner. Un membre de cette élite du capitalisme français était présent ce soir et n'était pas anodin, Bernard Arnault, fondateur de LVMH, côtoyait les patrons, puisque certains me disent, mais est-ce qu'on a les identités de ces patrons ? Donc, LVMH côtoyait les patrons de Total, de Capgemini, d'Engie ou de Renault. Donc on est sur de la petite PME, quoi. Jamais auparavant, ces figures du monde des affaires n'avaient reçu si officiellement une figure du RN. C'est ça qui change. Les stratèges du parti nationaliste anticipent très bien les conséquences d'un tel événement. C'est vertueux pour nous, dit-on du côté du RN. Ce qui était une évolution naturelle va croître exponentiellement. Maintenant, ils seront d'accord pour nous revoir. Veut croire un proche de Marine Le Pen avant d'ajouter, ils ont pu voir que Marine Le Pen était de la même trempe qu'eux. Ce sont tous les derniers survivants du bassin des piranhas, comme elle. S'il n'y a pas une photo du dîner de Marine Le Pen mardi soir, celle de Jordan Bardella, et là on parle de la une de Paris Match, merci Fatal Tondeuse, en compagnie de son amoureuse, Maria Carolina de Bourbon des Deux Siciles, ont eu un autre effet choc pour deux raisons. Alors hier moi j'ai appris par vous, je crois, ou j'ai vu sur internet vite fait que tout le monde parlait de cette une de Paris Match, on voyait Jordan Bardella, des photos qu'on nous vendait comme prises sur le vif, mais qui étaient quand même très très posées, on va pas se mentir. Et donc on s'en est un peu amusé en disant, oui bon, quel intérêt de connaître la vie amoureuse de monsieur Bardella. Mais ce journaliste du Figaro, il dit, détrompez-vous, c'est le signe d'une évolution. Pourquoi ? Jamais Marine Le Pen n'avait bénéficié de la une de Paris Match. Pour la première fois, Bardella a accepté de lever le voile sur une partie de sa vie privée, alors que, vous savez que le président du RN pourrait être le candidat à la prochaine présidentielle du parti, en cas de condamnation de Marine Le Pen à une peine d'inéligibilité le 7 juillet prochain, en tout cas confirmation de sa peine d'inéligibilité en appel. Une telle couverture médiatique. Ah oui, lever le voile, j'ai pas fait exprès. Pardon. My bad. Désolé. C'est pas moi, hein, c'est le Figaro qui le dit. Une telle couverture médiatique est une étape essentielle, estime le journaliste, un passage obligé même en vue de l'élection suprême pour un nouveau candidat. Tel l'avait fait Emmanuel Macron dans Paris Match toujours lors de la présidentielle de 2017. Pour le RN, cela relève en réalité d'une nouvelle étape dans la normalisation. Le curieux que le Figaro, journal de droite, dise ça. Mais oui, mais c'est un truc que je vous explique souvent là. Le Figaro, c'est très intéressant, je vous dis régulièrement, quand je lis le Figaro, j'ai toujours des voix qui s'élèvent, donc, ah, le Figaro, ce journal de droite, d'extrême droite même, ai-je lu beaucoup ces derniers temps. Oui, quand vous lisez les éditos de une du Figaro, vous avez des éditos qui sont très à droite, qui sont très engagés, qui sont très conservateurs, parfois réactionnaires, oui. Mais je vous dis aussi souvent qu'une rédaction, c'est hétérogène, et ce n'est pas une armée de soldats, les journalistes d'une rédaction, le petit doigt sur la couture du pantalon, au sein d'une rédaction, les gens ne sont pas forcément d'accord entre eux. Et là, vous avez effectivement un article qui n'est pas dans la tonalité des éditos de une du Figaro. Donc, je poursuis. Pour le RN, cette une de Paris Match relève en réalité d'une nouvelle étape dans la normalisation. Quand on lit les commentaires des articles du Figaro, c'est franchement triste et sale. J'avoue que les commentaires des articles du Figaro, c'est quelque chose. Mais c'est pas les articles. Moi, je pense qu'il faut pas séparer l'artiste de son œuvre. Il faut séparer l'édito du Figaro du contenu du journal. Voilà. Si. Faites l'exercice. En général, c'est pas tout à fait la même chose. Qui peut mesurer aujourd'hui l'impact électoral qu'aura l'officialisation de cette relation avec une incarnation de l'aristocratie ? Peut-être négatif d'ailleurs. Sera-t-il négatif quand le RN se pose en défenseur des classes populaires et moyennes ? Ou positif alors que le parti à la flamme tente de conquérir des électeurs qui ne lui sont pas acquis ? Aucun stratège nationaliste n'y voit une erreur politique, même s'ils avaient condamné tous les articles évoquant cette relation avant la une du magazine. Tous savent la puissance que peut porter une telle couverture de Paris Match. Un magazine parfois négligemment posé sur une table chez le coiffeur, le salon de maquillage, l'opticien, chez le dentiste. La normalisation du potentiel candidat RN, avec une prime en histoire d'amour décrite comme extraordinaire, est jugée comme un atout. Il y a Idir qui dit « Le Figaro avec Eugénie Bastier, je préfère me passer de ce journal. » Mais je comprends ce que tu veux dire. Moi, il y a des... Allez, je vous raconte les coulisses. Dans un journal comme Figaro, il y a des signatures que je ne lis pas. Voilà. Parce que je connais, je sais où ça emmène, je connais les biais, les filtres, les valeurs, j'ai déjà lu, ça ne me parle pas, je ne trouve pas ça fou. Voilà. Et parfois, je me dis, ah là là, qu'est-ce que tu es discriminant, c'est pas parce que tu n'as pas aimé un jour un article de ce journaliste que... Voilà. Et je relis et je dis, ah oui, bah non, bah, je sais pourquoi je ne lis pas la personne. Mais ça m'arrive aussi dans Libération. On va pas donner des noms, hein. Quel intérêt. Mais dans Libé, il y a des gens que je lis pas. Voilà. Il y a des signatures, quand je la vois, je dis, ouais, ça, non. J'aime pas. Il y a un manque de rigueur, il y a un truc qui me va pas, quoi. Non, vous n'êtes pas obligé de lire tout le journal, hein. Je continue avec Monsieur Bardella. Jordan Bardella, 30 ans, un jeune loup nationaliste, plutôt secret, qui aime contrôler son image, se dévoile et cela ne peut que plaire à l'état-major frontiste. Ce sont les mêmes qui avaient conseillé à Marine Le Pen de parler de sa vie privée lors de la présidentielle de 2022. Cette dernière dit souvent qu'une image en politique se construit en 20 ans et peut être défaite en quelques jours. À propos de Jordan Bardella, héritier politique du marinisme, ces mêmes conseillers se désespéraient de faire face à un coffre-fort dont personne n'avait la clé, quoi. Image un peu lisse. Cette fois, le président du RN a décidé de livrer un pan de sa vie privée à tous les lecteurs de Paris Match. Ce nouveau choix de communication ne pourra pourtant pas masquer l'étrange paradoxe dans lequel se trouve le parti de Marine Le Pen et de Jordan Bardella. Ce mouvement anti-système populiste, c'est le Figaro qui l'écrit. Hein. Ah, Dove Alphon, j'adore. Oui, là, le cœur se serre. Dove Alphon, directeur de la rédaction de Libération, dont j'adore les éditos, c'est toujours très subtil, très fin, c'est intelligent. Il quitte Libération. Ouais. Ouais, j'ai vu ça, ouais. À l'inverse, il y a des gens que j'aime bien lire comme ça. Et Dove Alphon, il s'en va, j'ai vu ça. Ouais. Je vous en parlerai parce qu'il faut qu'il soit remplacé, bien sûr. Ce mouvement anti-système populiste peut-il briser le plafond de verre en étant accepté par le système ? En devenant de droite, Marine Le Pen dit aussi que ça que n'existe en politique que ce qui paraît exister, ça vaut aussi pour la normalisation. Voilà. Donc, un parti qui se normalise. Mais est-ce que cette normalisation va l'amener au pouvoir ou est-ce que cette normalisation va le tuer ? C'est la question. Voilà. Je vous lis. Jordan Bardella a payé les clichés, ça tombe sous le sens. Ça ne marche pas comme ça, Killer Kane. Ces photos ne sont pas des photos prises sur le vif, ce n'est pas des photos naturelles, ce n'est pas des photos d'amoureux saisis comme ça. C'est un truc de communication. C'est-à-dire que le Paris Match, j'ai dit Figaro, Paris Match appelle Bardella en disant nous, on aimerait bien. Il paraît que vous êtes avec Madame Truc, là. En vrai, ça pourrait faire de belles photos. Ça pourrait faire un beau papier. C'est comme ça que ça marche. Et tu dis oui ou tu dis non. à l'époque où j'ai accepté Question pour un champion, donc il y a une dizaine d'années, un grand magazine de ce type-là, peut-être celui-là d'ailleurs, ah non, c'était à la naissance de mon premier enfant, ouais. Donc 2016, ah bah c'était la même année, 2016, m'avait proposé de faire des photos en famille, avec madame qui mon amoureuse qui ne montre jamais son visage, qui est d'une immense discrétion, et avec mon premier enfant, quoi. Voilà. Le deal, c'était un bel article, des magnifiques photos, peut-être même la une ou partie de la une, voilà. Mais le deal, c'était, par contre, il faut montrer votre épouse et montrer l'enfant, hein, ça va faire des jolies photos et tout. Voilà. Donc c'est le magazine qui vous propose. Et après, vous faites ce que vous voulez. Moi, par exemple, j'ai dit non. Voilà. Parce que j'en ai rien à foutre de montrer ma tronche, et surtout, j'ai pas du tout envie d'exposer ma famille. Après, certains peuvent dire oui, parce que ça participe d'un plan de médiatisation pour te rendre sympathique, le père de famille, etc. Voilà. Donc après, vous faites ce que vous voulez. Et donc, je pense que ce qui s'est passé, Paris Match appelle Bardella, ou le service de com du Rennes, en disant, voilà, nous, on pense que ce serait bien de faire un article avec des belles photos de vous et de votre amoureuse. Après, tu dis oui ou tu dis non. Après, là, ça dit oui, et puis après, c'est des photos, c'est un shooting. Ça marche comme ça. Il y a rémunération ? Alors, dans mon souvenir, non. Non, c'est gagnant-gagnant. Paris Match va vendre du magazine et Bardella vend son image. C'est gagnant, c'est win-win. Ouais. Tu montes pas ta famille, mais tu montes ton zizi sur OnlyFans quand même. C'est pas faux. Après, je rappelle que si quelqu'un arrive à m'envoyer une photo de mon zizi capturée sur Internet, je donne 10 000 euros à chaque personne qui m'envoie cette photo. Voilà. Sachant que je suis un gros rapia, si je le dis, c'est parce que je sais que cette image n'existe pas et puisque personne ne l'a vue. Mais je vous le dis pour vous faire rire. Donc voilà comment ça fonctionne. C'est de la com'. La question, c'est est-ce que cette com, donc, parce que manifestement la jeune femme, fiancée de Bardella, c'est une famille noble, c'est ça, donc plutôt un peu image de la haute société. Est-ce que ça va être considéré comme positif pour l'image de Bardella, pour son électorat, ou inversement, ça, je sais pas. Si au RN ils ont accepté de le faire, c'est qu'ils pensent que ça peut être positif. Il me reste un petit peu de temps là, parce que là, ça va encore. Oh, ça va, on est bien. Il reste combien de sujets ? Deux, on est bien. Mais après, vous savez qu'on peut être amené, pour finir sur le sujet là, on peut être amené à voter pour quelqu'un parce qu'on le trouve sympathique. Bon, moi je préfère m'intéresser aux idées et aux programmes, mais à un moment ça peut jouer aussi, l'image positive ou négative d'un homme, d'une femme politique, voilà. Et vous connaissez tous des gens qui un jour vous ont dit « Ah, moi j'aime bien machin ». Comme si le fait de bien aimer machin pouvait nous dire s'il allait bien diriger le pays. Bon, ça joue quoi l'image ? Ben, peut-être que ces images-là vont contribuer à diffuser dans l'opinion publique l'image d'un jeune homme sympathique, propre sur lui... Qui a une magnifique fiancée, j'ai une image un peu glamour, je sais pas, peut-être qu'il y a des électeurs qui peuvent être touchés par cette image. Ou pas, hein. Mais en tout cas, c'est le calcul. Parce que tu n'acceptes pas de faire la une de Paris Match. Tu n'acceptes pas de faire la une de Paris Match par hasard. C'est ce qu'on appelle la communication, quoi. Paris Match, c'est Bolloré, oui, je crois. Mais je vais vérifier tout de suite. Pour moi, Paris Match, c'est un... Je sais plus, faut que je vérifie, je suis pas sûr de moi. Paris Match... Qui contrôle ? Peut-être Bolloré, je sais plus. Je veux vérifier, je suis pas sûr de moi. t'indique que c'est Arnaud. LVMH. Ah oui, ça a été, c'est Bolloré l'a vendu à Arnaud. Ouais, Bolloré l'a vendu à Arnaud. En 2024. Donc c'est LVMH. Voilà. Ouais. C'est Arnaud, effectivement. C'est drôle d'ailleurs parce que récemment, il y a eu des rumeurs de vente du Parisien qui appartient au groupe LVMH à Arnaud, à Bolloré. Ce qui a beaucoup inquiété les journalistes du Parisien. Il y a eu une levée de bouclier en interne devant cette hypothèse. Voilà. Donc là, ça aurait été dans l'autre sens. Attends, ouais, c'est ça. Pas fait, non. Pas fait. Mais les journalistes du Parisien l'ont craint très fort. Allez, on enchaîne. Alors, revenons, c'est sans doute une des dernières fois, hein, puisque elle est terminée, cette commission. Sur la commission de l'Assemblée nationale, qui pendant plusieurs mois, 4 mois d'audition au total, s'est penchée sur le financement, l'indépendance, la neutralité de l'audiovisuel public. Voilà, donc 234 personnalités auditionnées, c'est ça, par la commission, notamment par le rapporteur M. Alloncle, qui posait l'essentiel des questions, et un article en forme de bilan, de conclusion, signé Aude Dassonville dans Le Monde. Alors voilà, c'est une signature que je connais. Aude Dassonville, c'est une journaliste qui a beaucoup d'expérience sur l'actualité des médias. Elle travaille sur le sujet depuis toujours, notamment à Télérama avant, et maintenant elle est dans Le Monde. C'est toujours des articles très documentés, très carrés, très rigoureux. Que dit Aude Dassonville du travail de cette commission et de son rapporteur? C'est la fin d'un mauvais film. La présidente de France Télévisions, dernière à être auditionnée, a réglé ses comptes lors de l'ultime audition de la commission d'enquête. Lisons. Pour son dénouement, mercredi, la commission d'enquête sur la neutralité de fonctionnement et le financement de l'audiovisuel public avait convoqué donc la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte, et son secrétaire général, Christophe Tardieu. C'était là une promesse que s'était faite le rapporteur ciotiste de Éric Ciotti, donc UDR, Charles Alloncle. Puisque le député de l'Hérault de l'Union des droites pour la République avait choisi dès le début de ce travail parlementaire entrepris par sa formation politique de concentrer ses attaques sur la plus importante des sociétés d'audiovisuel public, c'est vrai que il n'y a quasiment pas eu de questions sur Radio France. C'est étonnant d'ailleurs ça. C'est une commission sur l'audiovisuel public, on n'a quasiment pas parlé de Radio France, quasiment pas. Ça n'a pas parlé de l'INA, ça n'a pas parlé de... Voilà. Ça, c'est vrai que c'était très France Télévisions. Et donc c'est sur une audition de sa patronne qu'il a souhaité parachever son grand œuvre. Surprise, on a tous été surpris hier soir quand on a fini le réact. À la fin de cette audition, le président de la commission a pris la parole pour donner un petit peu son sentiment sur le travail et a laissé la parole, de façon assez élégante d'ailleurs, au rapporteur pour qu'il puisse conclure. Ce qui est normal, parce que c'est lui qui a posé l'essentiel des questions, c'est lui qui va écrire le rapport, c'est son parti, l'UDR, qui a demandé que cette commission soit créée. Donc c'était assez normal, cohérent, logique et élégant que le président laisse le rapporteur conclure et qu'il ait le mot de la fin. Et là, j'ai pas compris. La parole lui a été donnée et il a rien dit. Et la séquence était super étrange. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête à ce moment-là. Bon, l'audition s'était pas très bien passée pour lui, comme toutes les dernières éditions s'étaient pas très très bien passées, puisque au fur et à mesure qu'on avançait dans l'entrée de cette commission, les invités arrivaient, les auditionnés arrivaient, on va dire, de plus en plus remontés et de plus en plus préparés, parce qu'ils avaient vu dans les auditions précédentes que, disons, que le travail était fait de façon un petit peu particulière. Donc c'est vrai qu'ils arrivaient de plus en plus préparés. L'audition de messieurs Niel, Pigas et Nommé était assez symptomatique de ça, quoi. Donc je ne sais pas pourquoi, mais il s'est tu. Voilà. Mais bon, maintenant on attend son rapport, et puis il va peut-être aussi parler dans les médias, et il a commencé à beaucoup parler déjà dans les médias, monsieur Alloncle. Continuons. Madame Ernotte, ayant été reçue une première fois le 10 décembre 2025, on avait imaginé naïvement qu'il aurait... Le monde, ils sont coquins, hein. Madame Ernotte ayant été reçue une première fois le 10 décembre 2025, donc janvier, février, mars, avril, 4 mois auparavant, on aurait imaginé, écrit Aude d'Assonville, naïvement, que M. Alloncle aurait renouvelé son stock de questions. En 4 mois. Au lieu de quoi, comme trop souvent au cours de ces 4 mois et demi d'audition qui ont requis la présence de 234 personnes, le temps de 67 séances d'une durée globale de 200 heures, c'est une sorte de remake en moins drôle du film Un jour sans fin que le rapporteur s'est livré. Tournant en rond dans la faille spatio-temporelle d'une salle sans fenêtre de l'Assemblée, Charles Alloncle n'a cessé durant 4 heures et 15 minutes de revenir sur des sujets évoqués 1000 fois dans des termes quasi identiques malgré les réponses inchangées d'auditionnés obligés de bégayer. Beaucoup moins disposé à encaisser les coups stoïquement que lors de son premier passage, donc c'est ce que je vous disais, ce qui a rendu les auditions de plus en plus compliquées pour le rapporteur, c'est que, évidemment, au début, les gens sont venus, bon, c'est une commission d'enquête de l'Assemblée, comme d'habitude, les gens sont là pour comprendre un sujet, on va expliquer, on va répondre aux questions, et puis ils se sont rendus compte que c'est pas ce qui se passait, c'était des questions toujours les mêmes, très orientées, sur des sujets toujours les mêmes aussi, voilà, et avec un projet politique derrière. Zéro débat là-dessus. Ah, ça n'est pas militant de ma part de dire qu'il y avait un projet politique derrière la manière dont M. Alloncle a mené cette commission d'enquête. Tout le monde l'a dit, hein, y compris, je le rappelle, le président de la commission qui a résumé cet agenda politique de M. Alloncle en disant « Moi, je pense que derrière ce travail du rapporteur, il y a le projet de devenir le ministre de la Culture de Jordan Bardella en 2027. » Donc, c'est pas un propos militant. Voilà. Et donc, les auditionnés, disons que le ton s'est un peu tendu au fil des auditions, et les auditionnés, disons, étaient de plus en plus vindicatifs. Et Madame Ernotte aussi. Beaucoup moins disposée à encaisser les coups stoïquement que lors de son premier passage, Delphine Ernotte avait échafaudé un autre scénario, celui d'un règlement de compte en bonne et due forme. Oui, il a dit ça le président, sur RTL. Ouais. En toute logique, sa première cartouche est allée au rapporteur. Vous avez mis en lumière un consensus français, la privatisation n'a trouvé ici aucun défenseur. A-t-elle rappelé dès son propos liminaire ? Charles Alloncle, rappelle Le Monde, est le porte-parole du parti présidé par Éric Ciotti, parti qui souhaite la privatisation de l'audiovisuel public comme son allié du RN. Et Ernotte lui a dit, c'est dommage, c'est que vous n'avez trouvé personne pour défendre, parmi les 234 invités, la privation de l'audiovisuel public, et encore moins les patrons des chaînes privées qui sont venus défendre l'audiovisuel public, ce qui était surréaliste. TF1, Canal+, sauf Bolloré, il me semble. Non, vous n'avez pas écouté Bolloré. J'ai fait un react, allez voir. Bolloré, il n'est pas pour la privatisation. Il dit il faut qu'il y ait un service public de l'audiovisuel. Bolloré, il a dit, moi j'ai rien à dire sur les programmes de France Télévisions, il faut qu'il y ait France Télévisions, il faut qu'il y ait un audiovisuel public. La privatisation, c'est la fermeture de ça. Donc Bolloré n'est pas pour la privatisation. Il a dit, je veux juste que ce soit financé à 100% par la pub. Voilà. Ce à quoi les autres chaînes privées disent, ah non, après nous, on n'a plus de pub. Voilà. Voilà. Donc Bolloré n'est pas pour la privatisation. Donc, continuons. Le rapporteur s'est ému que le budget de France Télévisions s'élève à 2,6 milliards d'euros annuels. C'est 2,373 milliards, pas 2,6, rétorque la dirigeante. Il a prétendu qu'entre 2015 et 2024, ce budget avait progressé de 136 millions d'euros. Hein. Madame Ernotte lui a riposté que, entre son arrivée à elle et aujourd'hui, France Télévisions coûtait 600 millions d'euros, non pas de plus, mais de moins qu'à son arrivée. Pourquoi ? Parce qu'elle raisonne en coût constant, enfin en euros constants avec l'inflation, et lui, pas. Ouais. « Je trouve ce procédé très manipulatoire », a-t-elle fini par s'agacer, reprochant à son interlocuteur de raisonner en euros constants, alors que l'inflation a atteint 20% sur la période. « Cela fait 30 ans que je manage ?»« C'est affreux ce mot que je manage ?»« Comment on dit que je dirige des entreprises ?»« Je commence à mal le prendre », a-t-elle asséné. Jamais lassé de se répéter, M. Alloncle a demandé pourquoi elle avait conseillé à ses équipes de ne pas révéler le montant de leur salaire dans l'enceinte parlementaire, puisqu'il est avéré que, a priori, France Télévisions a demandé à ses salariés de ne pas donner leur salaire à l'oral à monsieur Alloncle devant la commission, et madame Ernotte répond: quel est le problème, monsieur le rapporteur, de ne pas avoir donné publiquement les salaires? Parce que les salaires, on vous les a donnés, on vous les a transmis par écrit, hein, dans la fameuse data room. Hein. Est-ce que c'est le spectacle? Est-ce que c'est le spectacle manquant qui vous pose sujet? Eh oui, parce que pour faire un tweet, une petite vidéo, hein, c'est quand même plus sympa si le chiffre est dit par la personne plutôt que de l'avoir dans un document envoyé par écrit. Je me pose toujours de l'intérêt pour la commission que le rapporteur ait fait autant de tweets, d'extraits vidéo. Je ne suis pas sûr que de poster, de tweeter de façon compulsive, toujours sur les mêmes sujets, ait pu aider le travail de la commission et la qualité du rapport final. Depuis quelques semaines, on cherche toujours des arguments, mais on ne les a toujours pas trouvés. Peut-être que lui, si on lui posait la question, il pourrait nous expliquer, mais comme je n'ai pas prévu de l'inviter ici. Part de la production indépendante dans les programmes de France Télévisions, poids de la masse salariale, actionnariat du groupe Media One, indemnité de licenciement, prix des hôtels cannois, soupçons de conflit d'intérêts. Pour ce générique de fin, le rapporteur a consciencieusement passé en revue les sujets qui ont fait le succès de son compte X. Qu'importe les réponses apportées et parfois les réputations même des auditionnés, qu'importe aussi les effets délétères de cette démocratie du spectacle, dénoncée dans son propos liminaire par Jérémy Patrieletus, qui est donc le président de la commission. Au terme de notre commission, une question vertigineuse s'impose à nous, avait souligné le président. Que sommes-nous prêts, nous les responsables politiques, à sacrifier pour la reconnaissance, les paillettes, tous ces accessoires, ces poussières et ces quarts d'heure de gloire, sans doute beaucoup, sans doute trop. Il était dit que Delphine Ernotte ne nourrirait aucun regret, puisqu'elle avait le dernier mot. Elle est également revenue de son propre chef sur une affirmation de Maxime Saada, le patron de Canal+. Et c'était à la toute fin de l'audition. « Ah oui, j'ai entendu dire que nous avions surenchéri sur Canal+ pour avoir les droits du Festival de Cannes », a-t-elle lancé. C'est faux. Ça, c'est un des arguments de M. Alloncle sur le fait que France Télévisions avait décidé de payer plus pour les droits du Festival de Cannes que Canal+. Madame Ernotte a dit « C'est faux, c'est faux. Franchement, si Canal+, premier financeur du cinéma en France, avait voulu garder le Festival de Cannes, je pense qu'il l'aurait gardé. Se pourrait-il qu'il y ait eu alors faux témoignage parjure ? S'alarme le président de la commission. Est-ce que Delphine Ernotte ment ? Est-ce que Maxime Saada de Canal+ ment, lui qui a affirmé que France Télévisions avait surenchéri ? La riposte de la dirigeante, deux points ouvrez les guillemets, mon collègue Maxime Saada, dont j'apprécie le professionnalisme, mérite peut-être la bonne foi ou la supposition de bonne foi que vous avez accordée à Madame Dati. Bon, ça c'est une petite pique pour le président. Lors d'une interview sur RTL lundi 6 avril, M. Patrieletus avait en effet donné le bénéfice du doute, en tout cas de la bonne foi, à Madame Dati, qui avait prétendu sous serment que les journalistes de l'émission Complément d'enquête avaient tenté de soudoyer l'un de ses proches. « Nous n'avons soudoyé personne, c'est factuel, il n'y a pas l'ombre d'un doute », à marteler la présidente de France Télévisions. C'est avec la même gravité qu'à la toute fin de l'audition, la dirigeante s'est tournée vers les hommes et les femmes de France Télévisions pour leur dire qu'elle savait que ces derniers mois avaient été éprouvants pour eux et qu'ils avaient vécu les soupçons de la commission d'enquête parlementaire douloureusement. Les députés avaient déserté la salle quand elle a conclu dans un silence de cathédrale « Je veux vous dire devant vous que l'audiovisuel public est debout ». Charles Alloncle avait alors le regard dans le vide. C'est la séquence que je vous décrivais tout à l'heure. À la fin de l'audition, et au moment de conclure, il s'est tu. Il s'est tu. Mon ami Zerdros 84000, peut-être habitant du Vaucluse, département que j'aime beaucoup, vu le pseudo sympathique, vient d'écrire « Bonjour, il faut rendre l'argent Samuel ». Alors, ici, c'est une blague qu'on aime faire ici. Hein. Il n'y a pas de kappa, mais on pourrait sourire à cette répercussion d'un mensonge qui a été porté par M. Alloncle et aujourd'hui qui est débunké. Sauf qu'à la vitesse de l'éclair, évidemment, j'ai vu ton historique, qu'on peut résumer par des accusations régulières contre les partis de gauche. Et donc j'en déduis que ton propos était premier degré. Donc je te rappelle que ce rend l'argent est issu, a été provoqué par des inventions et des mensonges en audition et sur Internet de Monsieur Alloncle, que ces mensonges ont été débunkés par le président de la commission lui-même. Voilà. Si tu voulais travailler un petit peu, tu aurais cette info. Et que ton message peut participer de ce que les juristes appelleraient un cyberharcèlement sur Internet, donc, et qui peut être poursuivi en justice. Donc, non pas que je te menace de ça, bien sûr, mais tu participes de ça. Donc, avant de dire des bêtises et avant de participer à cette désinformation, voilà, vérifie tes sources, vérifie tes infos, et là, ça t'évitera de dire des bêtises. Je vous lis. Zedrose 84 000. Ah bah, il est de retour. Oui, la gauche nous vole, et si c'est faux. Faux. Ah oui, faux. D'accord, comme ça. Attaque-nous. Ok. Alors, en attendant. Ok. En attendant, allons dans l'espace. Pour finir cette revue de presse, avec, pour le coup, une inquiétude. Une inquiétude sur, pour les astronautes, là, parce que le retour sur Terre des astronautes, là, les trois Américains et un Canadien. En fait, pose question et on sait qu'il y a des questions sur la sécurité. Donc voilà. Donc c'est à la fois une mission incroyable qui, moi, je suis pas un fou d'espace, mais ça nous fait quand même rêver un peu. Voilà. C'est assez incroyable. Mais voilà, là, il y a retour sur Terre et on sait qu'il y a au niveau du bouclier thermique, il y a des petites questions qui fait que je croise les doigts très fort pour que ces quatre personnes, tout se passe bien et que le retour sur Terre se passe au mieux. C'est ce dont parle Libération ici. Le show dans l'inconnu. Après son survol de la Lune, le vaisseau Orion doit amerrir au large de la Californie dans la nuit de vendredi à samedi. Hein. Entre-temps, les quatre astronautes auraient encaissé une bonne surchauffe au contact de l'air. C'est ce dont Libé parle. Que dit-on à la fin d'un tel voyage? Il est déjà temps de rentrer, ou il est enfin temps de rentrer. Après 9 jours d'un périple spatial qui les a emmenés à 400 000 km de chez eux. Donc jamais des humains sont allés aussi loin dans l'espace. Vous savez, le record a été battu. Pour voir la Lune en gros plan, on a vu des images qui sont folles, qui sont d'une beauté incroyable. Les quatre astronautes de la mission Artemis 2 vont retrouver leur planète mère dans la nuit de vendredi à samedi. À bord du vaisseau Orion, comme sur Terre, on entre dans la dernière ligne droite des préparatifs pour accueillir l'équipage qui va traverser l'atmosphère, freiner sous 3 grands parachutes, amerrir dans l'océan Pacifique au large de la Californie. La trajectoire d'Artemis 2 dessine un grand 8 entre la Terre et la Lune, s'est déroulée en plusieurs phases. Le vaisseau spatial Orion s'est d'abord placé en orbite terrestre, a fait 2 fois le tour de notre planète pour prendre de l'élan. Je vous le mime, hein. Et de l'altitude durant toute une journée, puis s'est mis en injection translunaire, hein, comme la célèbre voiture Vega Missile pour les amateurs. C'est-à-dire qu'il a infléchi sa trajectoire pour foncer droit vers l'astre. Merci beaucoup, Anarchie Verte. Cette phase de croisière assez monotone a duré 4 jours jusqu'à ce que l'équipage arrive au plus proche de la Lune dans la nuit de lundi à mardi. Il a survolé l'astre à 6545 km d'altitude pour observer en détail sa face cachée, constellée de cratères. C'est des images qu'on a regardées ensemble qui sont complètement folles, à l'œil nu et aussi sous l'objectif des appareils photo. Après être passé derrière la Lune, Orion est reparti en ligne presque droite vers la Terre et doit maintenant à nouveau s'écouler 4 jours avant qu'il ne replonge dans notre atmosphère. Et c'est dans la nuit de vendredi à samedi, donc c'est la nuit prochaine. Mais je ne sais pas s'il parle en heure américaine ou en heure européenne. Quoi. Française. CET. Sur le chemin du retour, le commandant de la mission et ses collègues ont commencé par transmettre leur flux de travail au centre de Houston, notamment les fameuses photos. Ce sera deux. Alors, Stardust Air Espace, notre ami créateur de contenu, streamer, qui suit tout ça avec beaucoup d'intérêt et fait de très beaux lives là-dessus, nous dit que ce sera 2 heures, heure française. Voilà. Sugar, c'est ça ? 2 heures, heure française. Donc, c'est la nuit prochaine. Donc, ils ont transmis les photos, les documents, ils ont dormi. Ils ont, l'article ne nous le dit pas, mais ils ont mangé du Nutella. Hein ? Évidemment, vous êtes au courant de l'histoire. Ils ont passé un coup de fil à leurs confrères de l'ISS, la Station Spatiale Internationale, c'est drôle, dont la Française Sophie Adenau pourrait changer leur impression sur le voyage lunaire. Les mecs se passent un coup de fil de Orion à l'ISS quand même. Voilà. Et se sont reposés, voilà, entre mardi et mercredi, il n'y avait aucune tâche. Voilà. Alors qu'on n'avait plus beaucoup de nouvelles de l'intérieur du vaisseau, la Lune s'est fait progressivement de plus en plus petite par les hublots, la planète bleue a repris du volume. Orion file actuellement vers la Terre à environ 40 000 km/h. On adore vivre dans ce vaisseau, a raconté l'astronaute Christina Koch en conférence de presse mercredi soir. On s'est tous fait la remarque qu'on finit par oublier qu'on vit dans un si petit espace car on a absolument tout ce dont on a besoin, mais on se cogne quand même les uns aux autres en permanence. Jeudi, donc c'était hier, l'équipe devait tester les équipements de protection contre les radiations solaires, indispensables pour préparer de futurs voyages spatiaux en protégeant la santé des astronautes et faire des essais de pilotage manuel du vaisseau. Ce vendredi soir, ce soir, il sera temps de commencer à suivre ligne par ligne les procédures de retour sur Terre, enfiler les combinaisons de retour, par exemple. Merci Graceware, merci Pépin Camille, merci Titus Spam, merci pour les messages, merci FRJ, merci Chef69, merci Fadal Tondeuse, merci Samoine, merci Carambouilleur, merci la tartiflette du quartier, je n'ai remercié personne depuis une heure, merci El Fabinho. Vers 1 heure dans la nuit de vendredi à samedi, sur le fuseau horaire de Paris, le vaisseau se coupera en deux, le module de service, la partie cylindrique à l'arrière d'Orion qui héberge la propulsion, les consommables eau, air, énergie devient inutile pour les dernières minutes de vol et se détache pour retomber sur Terre de son côté. Il y a littéralement MKVC190 qui vient de demander dans le chat « Est-ce que quelqu'un a déjà fait l'amour dans l'espace ?» Waouh. La partie habitée d'Orion, la capsule conique qui abrite les 4 astronautes, elle va pénétrer dans l'atmosphère samedi à 1h30 du matin. Et notre spécialiste spatial dans le chat, Stardust Air Espace, dit officiellement jamais. Officiellement jamais n'a personne fait. Personne n'a jamais fait l'amour dans l'espace. Officiellement. Voilà. Donc, je reviens en arrière. Donc, la partie habitée d'Orion va pénétrer dans l'atmosphère samedi à 1h30 du matin et encaisser une bonne surchauffe au contact de l'air protégé par son bouclier thermique. Je vois ceux qui, dans le chat qui disent « Est-ce que solo, ça compte ?» Je vous vois. Hein. C'était l'un des points cruciaux à améliorer entre la mission Artemis 1 qui a fait le tour de la Lune à vide en 2022 et sa suite aujourd'hui. Et là, on devient sérieux. Le bouclier s'était abîmé en plusieurs endroits sous la pression de gaz libérés lors de la rentrée atmosphérique. Hein. Mais, a priori, les corrections nécessaires ont été apportées. Et la capsule Artemis 2 ne risque pas d'être écorchée, a promis la NASA. Je vois que ça ne parle que de faire dans le chat, ça ne parle que de faire l'amour dans l'espace. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Mais c'est pas possible, mais c'est pas, vous ne, ça ne parle que de cul, quoi. Vu comment se comportent les fluides dans l'espace, c'est compliqué. Mais arrêtez, j'ai des images là. Ah là là. On a des priorités, ok. On en parlera ce soir, me dit Stardust et l'espace. Donc, l'angle de rentrée atmosphérique. Outre les modifications du bouclier, a également été ajusté pour qu'Artemis 2 plonge plus. plus verticalement, donc passe moins de temps en surchauffe. Alors, question à notre ami, la Stardust. Si Artemis rentre, la capsule rentre plus verticalement, alors c'est moins long. Attends, je parle d'espace toujours. Hein. C'est moins long, mais il y a plus de frotte. Putain, c'est affreux. Attends, vu le sujet, là, maintenant, on est... Il y a plus de frottement, du coup. Vous voyez ? Voilà, plus c'est vertical, plus elle prend de la chaleur, mais c'est moins long. C'est ça ? C'est moins long, mais c'est plus intense. Ah oui ! Alors, plus verticalement, tu as plus de G. Plus de G ? Waouh ! Et ton corps aime pas trop et ça peut tout casser. Voilà. Eh oui ! Ok. Non, de G, il a dit. De G de gravité. Pas de... Okay. Non ! Les dernières minutes sont de sacrées montagnes russes pour les astronautes. On est d'abord, écoutez, c'est pas anodin, écrasé par le poids de son propre corps en retrouvant la gravité, on a perdu l'habitude. On subit beaucoup de vibrations, énormément de chaleur. A témoigné Thomas Pesquet, par exemple, qui a déjà vécu deux retours sur Terre depuis l'ISS. À l'ouverture du parachute, ça bouge dans tous les sens, il y a beaucoup de chocs. Et puis ça se calme un peu jusqu'à l'amérissage, qui est le choc final. Baf ! Deux premiers parachutes se déplacent à 7600 mètres d'altitude pour freiner fortement la chute d'Orion. À 2900 mètres, il se détache. Trois autres parachutes beaucoup plus larges aident le vaisseau à finir sa décélération pour toucher l'eau à une vitesse raisonnable. De 38 366 km/h par heure au maximum, avant la rentrée atmosphérique, Orion doit arriver à environ 30 km/h. Au moment de toucher l'eau, choc semblable à celui d'un petit accident de voiture. Voilà. À 11h46 samedi, Orion devrait avoir amerri au large de San Diego. Entre 80 et 130 km de la côte et l'équipage récupéré par bateau. Quand on a fait décoller cet oiseau vers la Lune, je me suis dit qu'on ne quittait pas la Terre, mais qu'au contraire, qu'on l'a choisi, lançait Christina Koch mardi. Nous explorerons, nous construirons des vaisseaux, nous reviendrons sur la Lune et construirons des bases avancées. Nous conduirons des rovers ici, nous fonderons des entreprises sur la Lune. Putain, le premier McDo sur la Lune en vrai. Nous ferons tourner l'industrie, nous serons une inspiration, mais en fin de compte, nous choisirons toujours la Terre, nous choisirons toujours l'humain. C'est beau, hein ? Au-delà de ces belles paroles, le mal du pays, enfin de la planète, se faisait peut-être un peu sentir. Voilà. Le problème, c'est que le bouclier thermique n'a pas résisté au premier vol, on en a parlé déjà, avec Killer Kane, et n'a toujours pas été changé. Juste, on espère qu'un changement de trajectoire va amortir le choc, mais c'est à voir. Je crois qu'ils ont bossé sur le bouclier, dit l'article. Ils disent que les corrections nécessaires ont été apportées. Il semblerait qu'il l'ait un peu renforcé quand même. Hein. Je pense qu'ils ont mis un gros sommaire pour protéger. Ah, Defecator me dit non, c'est des corrections sur la trajectoire, pas sur le bouclier. C'est tout. Ils ont pas mis de... Alors qu'un gros sommaire, en vrai. Ah ouais, Stardust me confirme, ils ont juste corrigé la trajectoire pour qu'ils prennent moins cher. Eh ben, je m'inquiète. Et je trouve ça incroyable. Nous ne connaissons pas ces quatre personnes. Je ne les connais pas. Peut-être que certains... c'est peut-être les cousins, les cousines de certains dans le chat, mais moi, je ne les connais pas. Et pourtant, on est un peu avec eux. Et c'est ça qui est beau aussi dans ce qu'on pourrait appeler pompeusement la conquête spatiale. Je trouve, c'est que c'est le fait d'explorer comme ça l'espace nous rappelle quand même que on est censé, nous, l'humanité, former une communauté, même si ça se voit pas tellement au quotidien quand on voit l'actualité ou ce qui se passe sur Internet. Et oui, ces quatre personnes, on ne les connaît pas. Et pourtant, comme le dit Hammer, on est un peu avec eux parce que c'est une aventure humaine. Eh ben, on s'inquiète pour eux. Voilà. Et moi, je m'inquiète premier degré pour ces quatre personnes. Alors que je pense que je les rencontrerai jamais. Qui m'appelle en pleine revue de presse ? Mais enfin, je travaille, hein. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Voilà. Donc, voilà. Moi, je vais attendre avec impatience. C'est ça, c'est la nuit prochaine, si j'ai pas de bêtises. De savoir si tout s'est bien passé, quoi. Voilà. Merci, les amis, pour ce matin. Allez, je vais retrouver ma petite amoureuse. Qui est plus grande que moi d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je dis petite. Et puis après, j'ai une grosse réunion pour préparer le réponse cash de mardi prochain. Ça va être un joli stream. Hein, pardon, excusez la programmation, mais on est quand même sur du beau linge, des chouettes amis. Faut que je bosse sur le festival de demain aussi. Voilà. Donc, il n'y a aucun monde où je peux streamer ce soir. Par contre, demain, on se retrouve pour deux streams en direct du festival MVP. Hein, le premier à 10h, je ne dis pas de bêtises, le deuxième en début d'après-midi. Et puis dimanche. Voilà. OK ? Alfacto, un peu de musique. Mais est-ce que c'est libre de droit ta musique là, Alfacto ? Tu m'as répondu tout à l'heure ou pas ? Alfacto, il voulait nous faire écouter une musique, mais c'est libre de droit ou pas ? Ou pas ? Ou je vais me faire. Je vais me faire poursuivre. Me faire engueuler. Attends, laisse-moi regarder un truc. On fait un petit raid aussi, hein. YouTube. YouTube est mon ami. Un titre en particulier ? Alors j'adore parce qu'Alfacto, je lui dis non, tu me confirmes que cette musique est libre de droit, que je ne vais pas avoir de soucis. Et Alfacto, il me dit Signs of Decline sur YouTube, Go ou Spotify. C'est pas ma question. C'est, est-ce que c'est libre de droit? Tu sais qu'à chaque fois que je passe de la musique, je reçois un petit mail de Twitch, moi. Hein. Systématiquement. Hein. Monsieur Etienne, attention. Ah ouais. Ah ouais. C'est quoi comme type de musique? C'est doux? C'est doux? C'est doux ou pas? C'est de la musique douce ou pas? Alors, qui je vais raid? Eh bien, effectivement, je ne me suis pas trompé. On est sur quelque chose qui est dans la douceur, qui est dans la tendresse, je dirais. Pas impossible que je fasse écouter ça à Pio, mon petit dernier de 5 semaines, pour l'aider à s'endormir le soir. Voilà. Le signe s'appelle Signs of Decline. Voilà. C'est le groupe du beau-frère d'Alfacto. La belle guitare que vous avez entendue là, c'est son beau-frère. Voilà. Et on est comme ça ici. C'est la commu. Allez, qui est en live ? Qui est en live? Qui est en live? Alors, qui je raid aujourd'hui? L'école est finie. Ouais, ok. Ouh, papa, il est là, lui. Que les gens que j'aime bien. L'école est finie. Hop là. Qui m'écrit? Ouh, les SMS. Ouh, mon amoureuse qui m'écrit. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Je fais une petite musique d'attente. Hein. Je fais la trompette. Qui je raid aujourd'hui ? Mais oui, bah, j'y pensais. Ouais, Arthur Perticose. Tu as raison, Sugar. Le Perticose, l'ancien CEO de la K-Corp, qui vient demain au festival MVP. Et il est en live. Il est en live, c'est parti. On va voir le Arthur. Exactement, le boss. Bonne idée. C'est parti pour Arthur. Arthur Perticose, mesdames et messieurs. Voilà. L'entrepreneur. Voilà. Voilà. Lui, au moins, il n'a pas menti. Parfois, il y a des gens qui disent qu'ils sont entrepreneurs, en fait, qu'on vérifie. Et lui, c'est un vrai. Le raid se prépare, donc on coupe la caméra, parce que sinon, après, Vous connaissez l'âge du streamer ici. Parfois, on fait des bêtises. Je charge le raid. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite une belle fin de semaine, un beau week-end derrière. Je vous dis pas ce soir, parce que ce soir, je bosse sur le festival MVP. Je vous retrouve demain à 10h à 14h pour des lives en direct IRL du festival MVP. Ça va être la régalade. Et puis merci pour tout. Ciao, ciao.